Vous écoutez
RMC. RMC, Intégral Foot.
Benoît Boutron.
19h05 sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue, c'est l'Intégral Foot Ligue 1, comme tous les samedis soirs, on est ensemble jusqu'à 21h avec le grand, le seul, l'unique Coach Courbis. Salut Roland.
Salut les amis et salut à tous.
C'est la suite de la 22e journée de Ligue 1. Dans un instant, on débrief Marseille-Saint-Etienne. Victoire des Marseillais, 5 buts à 1. Mais retour en principauté. Le score est ouvert entre Monaco et Nantes. Maxime Tilliette, salut Maxime.
Exactement. Salut Benoît, salut Roland. Bonsoir salut à tous. C'est parti fort et c'est Mathis Sabline qui a ouvert le score d'une frappe croisée limpide. Monaco essayait de ressortir proprement. Et il y a eu le bon pressing de Nicolas Cozza. Le relais ensuite de Moses Simon vers Mathis Sabline qui a terminé du plat du pied. Petit filet opposé. Et il avait déjà touché le poteau quelques secondes auparavant, Mathis Sabline. Les Monégasques sont passés carrément à côté de leur entame de match. 1-0 pour les Canaries ici au stade Louis II à la 7e minute. Très belle entame de match en revanche donc du FC Nantes d'Antoine Combaré qui était dans une période compliquée mais qui démarre très bien ici à Monaco en créant un petit peu la surprise et en ouvrant le score par l'intermédiaire de Mathis Sabline.
Et ça rajoute de la pression sur les épaules d'Adi Hutter. Ah oui. On en parlera dans quelques secondes, mais Monaco donc mené au stade Louis II par Nantes. 1-0. On vous l'a dit, le match qui vient de se terminer, c'est Marseille-Saint-Etienne. Flo Germain est resté en tribune. Salut Flo.
Salut Benoît, salut coach, salut à tous.
Salut.
Bon, Flo, victoire avec la manière pour l'OM face à une faible équipe stéphanoise et surtout un très bon Gouiri côté marseillais.
Oui, un très bon OM tout court, je pense. Hein. Vraiment collectivement, Marseille a fait un gros match. Ils ont récupéré les ballons très 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 haut. Alors oui, Saint-Etienne, c'est sûr que c'est une équipe qui est en plein doute et qui va se battre, essayer d'accrocher le maintien et qui souffre beaucoup contre l'OM, hein, 2-0 en championnat à l'aller, 4-0 en coupe, tout ça à Geoffroy Guichard, et là le 5-1 pour l'OM. Mais Marseille a bien su les prendre, les étouffer, se créer des occasions, monter en puissance. On a vu, tu l'as dit, un très bon Amine Gouiri qui a débloqué la situation sur une magnifique frappe puissante quasiment en pleine lucarne. Il est aussi précieux dans sa capacité, et on s'en doutait, à combiner avec des joueurs de talent autour de lui, avec Greenwood, avec Rabiot, avec les Pistons, notamment Luis Enrique sur le côté droit. Donc Gouiri, auteur d'un doublé, a fait un gros match. Et puis derrière, ça a été un festival offensif, les buts de Murillo, de Rabiot, souvent sur des actions où il y avait 2, 3, 4 Marseillais dans la surface. Ouais. On a vu une belle entrée également d'Amar Dedic, passeur décisif sur le but d'Adrien Rabiot. Donc un OM à sa main qui
carton rouge à Monaco,
qui continue un tour d'honneur face au Virage Nord et qui fait la fête avec ses supporters.
Merci Florent, bonne soirée à toi. Tu files aux réactions, tu nous appelle s'il y a une déclare à retenir de Roberto De Zerbi ou d'un autre Marseillais. Belle victoire de l'OM, 5-1 contre Saint-Etienne. Il se passe beaucoup de choses à Louis II. Carton rouge à Monaco, oui. Mais pour qui alors?
Et pour Nicolas Cozza qui était à la récupération il y a quelques instants avant. Voilà, le piston gauche nantais qui était au départ de l'action sur l'ouverture du score de Mathis Sabline. 1-0 pour les Canaries ici à Monaco à la 9e minute. Mais Cozza vient de prendre un carton rouge pour une grosse semelle sur le tibia de Vandersen.
On va s'en apercevoir par la suite, mais on peut quand même envisager qu'on est en train de vivre le tournant du match. Parce que Nantes.
C'est mérité, Roland, ce carton rouge, ouais, qu'est-ce que t'en penses?
Quand tu vois, après, la semelle qu'il a mis, c'est plus que dangereux. C'est déjà limite, qu'il lui fasse pas plus mal. Ouais. Et je trouve quand même stupide cette erreur.
À ce moment du match, quelle erreur.
Enfin bon. Ouais, ça gâche la très belle entame de match des Canaries. Oui. Et ça va peut-être donner des ailes aux Monégasques. La tête de Minamino, ça va filer à côté. Bon. Et donc 1-0 pour Nantes ici à Monaco. Mais les Nantais réduits à 10 contre 11 pour les plus des trois quarts du match. Hein, pour 81 minutes de temps réglementaire désormais à jouer.
On va se poser sur cette rencontre d'ici quelques instants. Je vous signale juste qu'il y a 0-0 pour l'instant en Allemagne entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich après 39 minutes de jeu. On suit également du basket ce soir, les demi-finales de Leaders Cup à Caen. Le match en cours, c'est Le Mans Saint-Quentin avec Arnaud Valadon. Salut Arnaud.
Salut à tous. 0-0. Non, salut. Je rigole, je plaisante. Ouais. C'est parti depuis 4 minutes dans le troisième quart-temps et c'est Saint-Quentin qui est devant, 55-48, tombeur du Paris Basketball. Ouais. Hier, la surprise, Le Mans aussi, une surprise, a fait tomber Cholet, le co-leader, et donc 55-48 pour le SQBB dans cette première demi-finale.
C'est bon là, avec Bruno, on a joué les deux équipes qui marquent.
Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal.
Bruno, ça
il
doit
peut
être
même dire plus de deux buts dans le match. Hein.
C'est qui Bruno, Roland?
Hein?
C'est qui Bruno?
Ben écoute,
Écoute.
Bruno, Benoît, c'est pareil.
Ah ok, d'accord. J'ai eu peur. Je crois que tu avais fait une erreur 404, Roland. Non, c'est bon. Bon, merci Arnaud, on te retrouve tout à l'heure. Et la surprise pour l'instant, Saint-Quentin qui est bien en place à la Leaders Cup en demi-finale. Retour à Louis II. Je voulais juste faire un point classement, Maxime, Roland et vous tous qui nous écoutez. Donc Marseille s'est imposé, Marseille compte 46 points en Ligue 1. À l'heure où on se parle, Maxime, Marseille a 9 points d'avance sur Monaco qui est mené par Nantes, 1-0. C'est ça peut-être la conséquence pour le moment.
Ah oui, très clairement. Et attention tout de même avec Akliouche et un ballon récupéré par les Monégasques avec Minamino. Ah, le décalage vers Lamine Camara est pas très bon et donc il va perdre. Les Monégasques vont perdre l'avance qu'il y avait au départ de cette action. Mais oui, les Monégasques qui laissent un peu filer les Marseillais. Alors c'est pas de la faute de la victoire des Marseillais, c'est plutôt de la faute de ces Monégasques qui ont laissé quelques points en route, notamment sur ce début d'année 2025. 7 points pris sur 15 possibles. Monaco qui est là l'avant-dernière défense en 2025, 12 buts encaissés. 13 désormais, seul Reims fait pire avec 15 buts encaissés, donc voilà, la dynamique n'est pas très bonne. Bon, il y a eu 3 défaites sur les 4 derniers matchs, mais c'était contre l'Inter en Ligue des Champions, contre Paris et contre Benfica mercredi en Ligue des Champions également. Là encore, malheureusement, il y a du déchet technique à Monaco, parce que Lamine Camara était quasiment en position de frappe à l'entrée de la surface, mais son contrôle n'est pas bon, et donc le ballon a été rendu momentanément au Nantais, même si les Canaries ont envoyé une longue chandelle et s'apprêtent à subir longtemps, hein, j'ai l'impression, puisque désormais réduit à 10 contre 11. On va plutôt ressortir déjà que Antoine Comboiré avait décidé de retourner sur une défense de rebasculer sur une défense à 5. Finalement, bon, bah, il ne sera pas resté très longtemps.
Et comment
avec
il s'est adapté alors depuis l'exclusion?
Alors à gauche, il y a Kelvin Amian qui avait commencé piston droit, qui a décalé latéral gauche, et c'est Jean-Charles Castelletto qui occupe le poste de latéral droit dans ce qui ressemble désormais à un 4-3-2 pour les Nantais, qui avaient touché déjà le poteau sur un premier ballon, une déviation en une touche bien faite de la part de Moses Simon pour lancer dans la profondeur Mathis Ablin, et quelques instants plus tard ils ont fait mouche après avoir touché le poteau. Ablin qui quasiment sur une même frappe, un croisé, avait encore une fois battu Majewski et a pu faire trembler les filets cette fois-ci. Là, il y a un temps peut-être fort, on va dire, pour les Nantais qui arrivent à faire circuler la balle, à renverser. On va d'une aile à une autre avec Chirivella notamment à la baguette. Et ils vont essayer de s'installer avec le ballon dans les pieds dans le camp des Monégasques qui, pour l'instant, font une entame plutôt compliquée.
C'est à 10 contre 11, c'est eux qui ont le ballon le plus souvent. Il y aura quand même
c'est pas mal.
Une anomalie quelque part.
On va la suivre cette action
d'ailleurs. Ouais, avec Moses Simon qui rentre dans la surface, qui va centrer fort. Oula, il a eu un petit peu de mal pour éloigner le danger. Christian Maouissa, il va concéder le corner. Il a peut-être perdu ses appuis sur ce coup, qui d'ailleurs Maouissa n'était pas totalement irréprochable sur l'occasion, la première, avec le poteau touché par Mika Biret qui s'était défait justement du défenseur Molégasque. Il va y avoir un corner pour les Nantais qui mènent donc 1-0 ici au stade Louis II. C'est la 13e minute. Mathis Ablin a ouvert la marque, mais quelques instants après, eh bien Nicolas Cozza s'est fait expulser côté Nantais, donc entame intéressante mais frustrante avec ce carton rouge pour les Canaries. Le corner à venir avec Chirivella à la baguette, c'est frappé au premier poteau mais le ballon n'est pas levé, donc carrément dégagé par Lamine Camara. 1-0 pour Nantes ici au stade Louis II, mais les Nantais réduits à 10 contre 11.
Comment tu analyses cette baisse de régime de l'AS Monaco, ce début d'année difficile pour les Monégasques?
Certaines blessures arrivées au mauvais moment, avec des joueurs qui sont difficiles à remplacer comme Zakaria. Et puis il y a un calendrier qui est quand même un calendrier assez difficile, et notamment ces matchs tous les...
Oh, l'arrêt d'Anthony Lopez sur la frappe de Ben Seguir, elle était déviée, hein, il me semble, et il n'a pas été surpris, Lopez, pour faire aller vite au sol et claquer ce ballon. Ça va sortir en touche à l'opposé, Elias Ben Seguir qui a l'opportunité de jouer, hein, lui qui avait démarré les 5 derniers matchs sur le banc de touche côté Monégasque, et là en revanche il y a un ballon perdu, peut-être un contre à bien négocier pour Mathis Ablin qui va pouvoir accélérer et lancer côté gauche Moses Simon, l'accélération du Nigérian, il va aller plus vite que Thilo Kerrer, il va pouvoir rentrer dans la surface de réparation. Le centre en retrait en revanche, il a été mal ajusté, le ballon va revenir dans les pieds des Monégasques.
Et Roland, tu imagines si Monaco se fait accrocher ce soir à Louis II, l'écart qui va se creuser entre Monaco et Marseille, c'est fou quand même déjà.
Ah ben oui, complètement. Bon, mais déjà il y a ce match retour à Benfica,
oui, qui doit, une prochaine,
qui doit aller donner un petit peu des idées à Monaco d'être encore optimiste. Mais bon, perdre
défaite 1-0, on rappelle
à domicile, c'est pas... C'est pas évident du tout maintenant d'aller se qualifier. Et ensuite, c'est pas depuis 15 jours que ça va pas. Il y a quand même un peu plus que ça. Cette équipe de Monaco, on l'a trouvé équilibrée. Maintenant, je la trouve déséquilibrée. Là, on espère pour eux qu'ils puissent égaliser et gagner ce match. Parce que si en plus tu n'arrives pas à battre Nantes en jouant à 11 contre 10, à 80 minutes, sincèrement, là je ne saurais plus quoi dire.
19h15 sur RMC, l'intégrale Foot Ligue 1 avec coach Courbis. Monaco est mené à domicile par Nantes, 1-0. Les Nantais sont réduits à 10. On rappelle la victoire de l'OM, 5-1 face à l'AS Saint-Etienne. Le doublé d'Amine Gouiri, supporter marseillais. Et Stéphanois vous attend en 32-16 pour débriefer la rencontre avec nous. Mais au casse monégasque, Maxime, et nouveau corner pour Monaco.
Exactement, avec Akliouche qui avait glissé le ballon côté droit à Mika Biarritz, mais le bon retour de Nicolas Palois pour contrer la tentative de centre de Biarritz. Nicolas Palois qui dispute sa 200e en Ligue 1 avec le FC Nantes. Sinon au total, tout club confondu, il en est à 293 en Ligue 1. C'est pas mal hein, pour Nicolas Palois qui a encore été précieux pour faire le bon retour et concéder le corner que va frapper Lamine Camara, le milieu de terrain sénégalais qui est arrivé de Metz. Ce sera sortant, venu de la droite ce corner, avec évidemment Denis Zakaria qui est monté, avec également Mika Biarritz qui est cherché au second poteau, au duel avec Palois, il va faire faute l'attaquant danois, et donc on en reste à 1-0 pour les Canaries ici à Monaco à la 17e.
Ce qui est fou, c'est qu'on a l'impression que cette équipe de Monaco va moins bien depuis qu'Adi Hutter a prolongé son contrat d'entraîneur sur le banc de l'AS Monaco. Alors on ne sait pas s'il y a un lien de cause à effet, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui, sur le climat qui règne au club et sur le fait qu'il puisse être menacé en cas de nouvelle contre-performance ce soir?
Bah, la contre-performance contre Nantes, c'est vrai qu'elle ferait beaucoup de mal, parce que la dynamique, bon, on en a déjà parlé, elle est pas bonne du tout. Enfin, elle est pas bonne, et si ça se complique encore ce soir face à ce Nantes réduit à 10 dès la 8e minute, bah, ce serait pire. Et c'est vrai que tu le disais, il a été prolongé en toute fin d'année. Le projet de jeu sur le début d'année était plutôt séduisant, mais ouais. C'est l'évolution, comment dire, le jeu est peut-être trop prévisible hein, désormais, trop attendu du côté des Monégasques, et on s'adapte, notamment avec Antoine Comboiré qui disait c'est assez facile, enfin il a pas dit dans ses termes, mais il a déchiffré assez simplement le jeu Monégasque en disant il y a deux défenseurs centraux, il y a deux latéraux qui jouent très haut, et après tous les joueurs jouent au cœur du jeu avec beaucoup de densité, beaucoup de courses, beaucoup d'appels au milieu du terrain. Donc au final les adversaires sont plus forcément surpris par cet AS Monaco. Là en revanche, c'est bien fait le renversement avec Mika Biarritz, peut-être la bonne pioche du mercato hivernal, même s'il a été plutôt transparent face au Benfica Lisbonne. L'accélération derrière de Vanderson, mais le bon retour, ils étaient deux, hein, Douglas Augusto et Pedro Chirivella. Derrière, par contre, ça va arriver jusqu'à Ben Seguir qui essaie de se retourner, d'enverser le jeu, bien fait, vers Minamino qui glisse à droite vers Vanderson dans la surface. Le centre fort, trop fort d'ailleurs. Ça va atterrir jusqu'au deuxième, troisième poteau. L'effort derrière de Caio Henrique pour éviter la sortie. Le centre, les Monégasques qui poussent. Oh, la claquette! Belle claquette sur la déviation de Marnès Akliouche, et nouvel arrêt signé Anthony Lopez qui a les gants chauds et qui est décisif sur ce début de rencontre. Nantes mène 1-0, mais le gardien nantais Anthony Lopez vient d'être mis à contribution par deux fois là.
Pour le moment c'est sûr qu'avec ces deux interventions, ça peut le mettre en confiance. Il va avoir du boulot, mais souvent les gardiens font des grands matchs quand ils ont beaucoup de boulot.
Oui.
Il a peut-être encore mis à contribution sur ce corner. On cherche le second poteau encore une fois avec Biarritz. Minamino, est-ce qu'il est hors jeu? Non, ça se poursuit avec Biarritz. Il est passé le crochet. En revanche, ça va arriver derrière dans les gants de Anthony Lopez. Et en effet, il y avait hors jeu. Le drapeau s'est levé à retardement. 19e minute, donc 1-0 pour Nantes ici à Monaco. Mais les Nantais réduits à 10 depuis l'expulsion de Nicolas Cozza.
Il peut être long ce match pour le FC Nantes qui mène 1-0 mais qui est réduit à 10 et qui subit pour l'instant deux belles parades d'Anthony Lopez. On revient dans un instant pour la suite de cette rencontre. Je vous signale qu'en Allemagne, c'est la mi-temps entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich. 0-0 pour le moment. On a également un match en cours en Angleterre. Everton mène 1-0 à Crystal Palace. Et on rappelle les autres résultats. Donc le nul du Real Madrid, notamment à Osasuna, on en parlera à 19h45 avec Edgar Grollo. Le nul, un but partout. Le rouge pour Bellingham dès la première période. Et le but pour Mbappé. Peut-être un œil sur l'occasion monégasque, Maxime.
Ouais, Akliouche qui rentre dans la surface de réparation, qui va centrer fort au second poteau. C'est dégagé par Kelvin Amiens, puis le dégagement de Thierry Vela, mais aussitôt rendu au Monégasque. Ça va être long en effet pour les Nantais qui mènent 1-0 mais qui sont réduits à 10 et qui subissent beaucoup en ce début de rencontre.
Et on revient dans un instant pour suivre la première période de ce Monaco-Nantes et pour débriefer Marseille-Saint-Etienne, la victoire marseillaise 5-1. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot.
Benoît Boutron.
19h23 sur RMC. Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. L'Intégral Foot jusqu'à 21h avec coach Courbis comme tous les samedis soirs, 19h-21h. C'est la Ligue 1 qui est à l'honneur. Avec cette 22e journée, Marseille a battu Saint-Etienne 5-1. On vous attend, supporters marseillais, stéphanois, au 32-16 pour débriefer le match avec le coach. La rencontre en cours est très spectaculaire pour le moment entre Monaco et Nantes, Maxime Tillette.
Oui, les Canaries qui mènent 1-0 depuis le but de Mathis Sablin à la 5e minute. Nicolas Cozza s'est fait expulser quelques instants après pour les Canaries, donc réduit à 10 contre 11. Et donc Monaco a poussé depuis pour égaliser. Mais là, pendant la pub, on a été plus proche du 2-0 pour les Nantais qui opèrent en contre-attaque avec encore une fois Moses Simon qui a bien trouvé Mathis Sablin dans le dos de la défense. Sablin qui en une touche a voulu tromper Radek Majetski, mais le gardien Molégas est bien sorti à capter le ballon, mais encore une fois elle s'était présentée face au portier monégasque Mathis Sablin. Les Nantais qui font vraiment le bon début de match, mis à part l'expulsion de Nicolas Cozza, c'est quasi l'entame parfaite.
Roland, si tu te mets dans la peau d'Antoine Comboiré, jouer aussi longtemps à 10 contre une équipe monégasque qui a beaucoup de talent offensif, quelles seraient tes consignes? Comment t'essaierais de les perturber alors?
Ben disons que déjà il est passé de 5 défenseurs à 4 défenseurs. Et je trouve ça quand même assez intéressant. Mais ce qui me paraît être intéressant, c'est que avec ce handicap d'un joueur à 11 contre 10, il y a quand même encore 2-3 possibilités offensives très intéressantes de Nantes qui, malgré cette infériorité, a failli mettre le deuxième but. Donc je ne sais pas si les Nantais ne vont pas arriver à en mettre un deuxième.
Donc tu leur dirais de rester bien en place et de profiter de la vitesse d'Ablin et de Simon.
Complètement. Ouais. Et Monaco, par contre, bon, la question, je me la pose moi-même, c'est que arriver à ne pas battre
Nantes
à 10, ouais. Alors là sincèrement, je ne saurais plus quoi dire.
Bah on n'y est pas, hein. 25 minutes, 1-0. Et
encore une fois, on met un ballon dans le dos de Kerrer avec Moses Simon qui va rentrer. Oh, la passe in extremis de la tête, la remise en retrait de Kerrer. C'était encore une fois un petit peu sauf qui peut. Hein. Et on abuse côté Canary de ballon dans le dos de la défense, mais ils ont raison parce qu'à chaque fois, ça fait grand danger dans la défense molégasque. Maintenant, c'est Ben Seguir qui va accélérer côté gauche avec Caio Henrique qui va lever la tête. Caio Henrique qui doit se montrer sous un meilleur jour. Hein. Lui qui était encore une fois sur le banc de touche cette semaine en Ligue des Champions. On lui a préféré Crépin Diatta qui de base n'est pas du tout arrière gauche.
Plus retrouvé ce joueur-là qui est resté.
Il s'est fait les croisés la saison passée.
Blessé pendant un an, on le reconnaît plus.
Techniquement très fort et physiquement qui a du mal à revenir. Malheureusement, Caio Henrique, et ça porte préjudice à l'AS Monaco. 1-0 pour Nantes qui est réduit à 10 en principauté. 19h26, on vous l'a dit, Marseille a explosé Saint-Etienne cet après-midi, 5-1. Hamza, supporter marseillais, est avec nous. Il a composé le 32-16. Salut Hamza.
Salut les gars, bonsoir à tous.
Salut Hamza.
Bon Hamza, est-ce que tu as passé un bon moment devant le match de l'OM? Est-ce que tu as apprécié ce que tu as vu?
Ah oui, ça, franchement, quand ça régale comme ça, là, c'est une belle fin d'après-midi, quoi.
Qu'est-ce qui t'a plu? C'est la maîtrise totale pendant tout le match, malgré le fait que Saint-Etienne était assez limité sur la rencontre de cet après-midi?
Là, franchement, c'est totale maîtrise et surtout, tout le monde était concerné, quoi. Tout le monde, chacun, franchement, tu n'as rien à dire. C'est juste après le but, un peu, après un but, c'est ça qui est un peu dommage, tu pourrais...
Le but de clouer Sassan,
tu pourrais clouer Saint-Etienne totalement, mais bon, après dans l'ensemble, franchement, c'est top, quoi.
Ouais. On rappelle, le but inscrit alors que Marseille menait 5-0, donc le but de Stassin à la 79e. L'événement du match, Hamza, c'est peut-être Gouiri qui a débloqué tout ça avec un but magnifique. D'ailleurs, il a été auteur d'un doublé. Il y avait des doutes à son arrivée. Est-ce que tu commences à être convaincu par l'apport d'Amin Gouiri à l'OM?
En deux matchs, il a fait oublier Eli Way, quoi, tout simplement. Ouais. Il a montré ce qu'on attendait de Eli Way pendant 3-4 mois. Et lui, il a réglé en deux matchs, quoi. Donc, rien à dire qu'il continue sur cette lancée-là. Et on pourrait être bien jusqu'à la fin de la saison.
Parce que Roland, quand on regardait le match, tu m'as dit oui, Gouiri met un doublé. Mais en plus, il provoque le pénalty, ce qui est très important. Donc, il a un rôle majeur dans cette victoire.
Absolument. Mais dans la période actuelle, on s'occupe du buteur. On s'occupe de la passe décisive. Et après, l'avant-dernière passe décisive où le gars qui arrive à trouver un coup franc qui va donner la possibilité à un coéquipier de pouvoir marquer, mais ça, on s'en fout.
Le coup
franc. Donc, j'essaie modestement de le faire comprendre et peut-être il y aura quelques améliorations dans les semaines ou les mois à venir ou les années à venir.
Le coup franc pour Monaco contre Nantes, Maxime?
Ouais, c'est parti, le pied gauche du Brésilien Caio Henrique repoussé par la tête du Brésilien Douglas Augusto pour les Nantais, coup franc qui avait été obtenu par Ben Seguir, mais il y avait mieux à faire là pour les Monégasques, et derrière Vanderson qui est obligé d'éloigner le danger parce que les Nantais avaient encore une fois tenté de mettre un long ballon dans le dos de la défense. Nicolas Palois encore va renouveler l'expérience avec à la retombée, pourquoi pas le penant. Non, cette fois-ci ce sera Caio Henrique qui va mettre le pied sur le cuir. La 29e minute, 1-0 pour Nantes ici à Monaco, et les Nantais en revanche réduits à 10 depuis l'expulsion de Nicolas Cozza. Le buteur s'appelle Mathis Abli.
Roland, tu partages le sentiment d'Hamza. Toi aussi, tu es très satisfait de ce que tu vois d'Amine Gouiri depuis qu'il est arrivé à Marseille ?
Ah, ben oui, c'est difficile de faire mieux, puisque ouais. Il est arrivé il n'y a pas longtemps. Et après, il y aura une discussion obligatoirement pour ce joueur-là. Est-ce que c'est que ce soit un attaquant ? Évidemment, ce n'est pas un défenseur. Mais que ce soit un numéro 9, comme on imagine donc le numéro 9. Mais c'est difficile, difficile à dire. Donc on aura l'occasion, parce que ce que dit De Zerbi au sujet de Gouiri, c'est que ce joueur-là, il est talentueux, il n'est peut-être même pas au courant des qualités qu'il peut avoir. Donc c'est vrai que l'entraîneur qui arrive à voir ça d'un joueur, ben, obligatoirement, ça ne peut toucher que le joueur et le toucher favorablement. Donc c'est pour ça que ça fait 15 jours qu'il est là. Attendons, mais que l'OM soit son club, je dirais, pourquoi pas. Par contre, à la pointe de l'attaque, ben, je dirais, pourquoi pas, mais ça... On va voir. C'est le seul petit détail que je suis un petit peu sceptique.
On précise que Mopé n'est même pas entré en jeu. Cet après-midi, d'ailleurs, il y a eu 4 changements,
par exemple,
et Mopé est pas rentré.
Si on discute de ce poste de numéro 9, je vois plus Mopé, avec ses qualités, ses défauts, comme numéro 9 que Gouiri. Mais par contre, voir Gouiri et Mopé jouer ensemble, et que l'OM puisse jouer avec trois attaquants, il n'y a aucun règlement qui l'interdit.
Merci Hamza d'être venu au 32-16. Bah, bonne fin de saison, hein. Là tu te régales, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. C'est match à Auxerre pour la prochaine journée pour l'OM, samedi prochain.
Ouais, voilà. Surtout pas trop faire de petites erreurs. Parce que ça joue souvent sur des détails. Donc, qu'on soit serein, là tu nous rends un peu ce qu'on aura dans les tribunes. Et voilà quoi.
Bon, merci Hamza, à bientôt sur RMC.
Salut Hamza.
19h30, l'intégrale Foot Ligue 1, la 22e journée, et ce passionnant Monaco-Nantes, Maxime Tilliet.
Oui, 1-0 pour les Canaries ici à Monaco après le but de Mathis Sablin, mais derrière l'expulsion de Nicolas Cozza a compliqué la tâche pour les Nantais qui depuis subissent beaucoup, même si là ils arrivent de temps en temps à ressortir de leur camp. C'est bien fait, le bon travail de Mathis Sablin et Johan Le Penant qui va pouvoir renverser en passant par Nicolas Palois côté gauche, Kelvin Amian. Ouh là là, qu'est-ce que c'est beau de la part de Moses Simon, le grand pont avec la talonnade au départ pour trouver derrière Almion, la frappe, elle est contrée, mais quel geste technique. Signé Moses Simon qui a donné un tour de rein sans doute là à Thilo Kerrer.
Ils ont encore failli mettre le deuxième.
C'est impressionnant. Ah et ouais. On est inquiet par la fébrilité monégasque. C'est surtout ça, Maxime. Hein. On les sent pas.
Oui, c'est
tout
ce qu'on ressent. En effet, on a l'impression qu'à chaque incursion nantaise, ça peut faire mouche.
Au niveau de la confiance, c'est pas la meilleure période. Mais bon, ce que je regarde aussi, c'est le manque de solidité défensive individuellement et collectivement.
Ouais. Ouais, c'est pas rassurant. Et là, les Monégasques qui, encore une fois, sont à l'attaque. Mais on va voir ce ballon au second poteau. Pourquoi pas vers Akliouche. La tête, il l'a raté. Oh. Il l'a totalement raté alors qu'il était seul au second poteau. Marnès Akliouche qui a voulu décroiser sa tête plutôt que d'essayer de la mettre. Il aurait peut-être même plus pu aller du pied droit tenter quelque chose. En tout cas, ce centre était très beau. Signé Caio Henrique au second poteau. Et ça, Roland, vu la dynamique de ce début de rencontre et la dynamique plus globale des Monégasques, vaudrait mieux vite égaliser plutôt que éviter de broyer trop de noir durant cette rencontre.
Quel geste, on l'a revu au ralenti là, Moses Simon. Un petit pont sur une talonnade, alors là c'était sublime, un petit loquet.
Grand pont même, parce que derrière il poursuit son action, il accélère, c'est dans son intention, c'est pas de la réussite, hein, c'est vraiment ce qu'il voulait faire, se talonner le ballon pour passer et en même temps faire un grand pont à Thilo Kerrer. Très très beau geste et surtout efficace de la part de Moses Simon qui est déjà l'auteur de la passe décisive pour Mathis Sablin à la 5e minute. Et ce sont là encore les Nantais qui ont le pied sur le ballon, alors forcément c'est plus compliqué de faire le jeu, d'autant que les Nantais de base sont enfin Nantes est l'équipe de Ligue 1 qui a le moins la possession de balle en moyenne cette saison en championnat, 40%. Ce sera sans doute le cas encore ce soir. Attention avec les Monégasques, avec Biret trouvé dans la surface, il essaye de se retourner, le ballon mal dégagé, ça revient sur Camara, c'est contré à Cliouche qui aura une nouvelle fois la chance de toucher la balle. On est toujours autour de la surface de réparation nantaise, on essaye de trouver la faille, on va tenter côté droit avec Vanderson, on combine Elias Benseguir qui a totalement dézoné, abandonné son couloir gauche pour venir côté droit désormais, essayer de combiner avec Lamine Camara, le jeu à 3 pour trouver Vanderson, le Brésilien qui va peut-être centrer, il va finalement crocheter, se mettre sur son mauvais pied, le pied gauche en retrait, Lamine Camara, le contrôle est raté et là attention, il y a des ballons de contre avec la vitesse encore une fois de Moses Simon, mais cette fois-ci Christian Mawissa a pris le dessus. 34e minute, 1-0 pour Nantes face à Monaco, mais les Monégasques sont sur un fil.
Qui sont les leaders dans cette équipe monégasque? Est-ce que c'est seulement Zakaria? Est-ce qu'il a des relais aussi dans le 11 qui est aligné? Thilo Kerrer,
Zakaria, Kerrer, Mbolo.
Parce que là, ils sont en train de passer à côté, les Monégasques.
Bon, mais tiens.
Ouais, ils passent à côté. Hein.
Tiens, Golovin, mais malheureusement, il n'est pas là. Ouais,
enfin, Golovin, c'est pas vraiment un leader de parole.
Mais Golovin aussi, c'est comme Carlo
Henrique. Ni le terrain, d'ailleurs.
On revoit plus l'énorme joueur qu'on a pu voir il y a quelques temps de ça.
Et on voit même pas d'enthousiasme sur les visages. C'est
énorme par séquence.
Maxime, c'est que là, on voit les têtes baissées.
Il n'y a pas de révolte, tu veux dire.
C'est fou.
Mais ouais, c'est clair. Après, ils se disent qu'il y a du temps, hein. Le match est encore long. C'est la 35e minute. Il y a certes 1-0 et on voit mal les Nantais subir de la sorte encore plus d'une heure ou presque. Mais en tout cas, pour l'instant, ce sont aux Monégasques de courir après le score. Et déjà, les deux dernières réceptions en Ligue 1 avaient été laborieuses, hein. Face à Rennes où Monaco s'impose 3-2, mais dans un match à rebondissement. Et surtout face à Auxerre, la dernière réception ici en Ligue 1 où les Monégasques, souvenez-vous, étaient menés 2-1 par la JA à la mi-temps. Et c'est Mika d'un triplé qui avait réussi à inverser la tendance de ce match, mais les Monégasques s'étaient vraiment fait peur et ils font peur aussi à leurs supporters sur ces dernières sorties. Et attention, parce que l'enchaînement là, ça va arriver vite. Il y a Benfica dès mardi, ouais. Et ensuite il y aura un match à Lille, donc vaut mieux éviter de plonger dans une crise profonde à ce moment-là de la saison. Alors lorsqu'on aborde ce sujet de la potentielle crise à Monaco, on nous ressort cet argument ces dernières heures du fait que Monaco est dans les temps de passage, comme la saison passée, Monaco avait fini deuxième et a le même nombre de points, donc voilà, il n'y a pas de panique à avoir. Monaco était au rendez-vous d'ailleurs des play-offs de Ligue des Champions, c'était l'objectif du début de saison. Alors il y a certes une déception aussi en Coupe de France, mais Monaco avait été sorti au tir au but par Reims, pensionnaire de Ligue 1, donc globalement on veut éviter de tomber dans le défaitisme, on va dire, côté monégasque, même si là on va suivre la passe en retrait de Kerrer vers Radek Majetski, et derrière au second ballon c'est un Nantais tout seul, Douglas Augusto en l'occurrence, pour aller trouver Mathis Sablin, et les Nantais qui vont encore une fois pouvoir souffler en faisant circuler la balle dans le camp des Monégasques. C'est important aussi quand on est réduit à 10 d'avoir ces temps de possession et de pas toujours subir. Et là en plus, Kelvin Amian qui passe en 1 contre 1 face à Vanderson, il va centrer au second poteau, la tête de Caio Henrique pour éloigner le danger, et derrière c'est Elias Benseguir qui met le pied sur le ballon. 9 minutes à jouer dans cette première période et Monaco court après le score. L'ouverture du score a été signée, c'est bien fait là pour trouver Benseguir qui lance à Cliouche côté droit, le crochet devant Palois, il est passé, oh, il la met à côté à Cliouche, il avait tout fait parfaitement sauf la finition, le petit plat du pied un peu trop croisé, mais oh, quel dommage, le crochet, j'en perds mon latin, le crochet sur Nicolas Palois était de la plus belle des classes pour malheureusement derrière le mauvais geste à la finition, et ça ressemble tellement
enrhumé, toi aussi,
malheureusement.
Maxime, c'est
dingue. Ah, je me suis fait enrhumer sur ce crochet en effet, ouais, très clairement, parce que là il l'a pas vu venir, hein, Nicolas Palois.
Il peut la donner aussi plat de pied à Minamino.
J'étais sûr que ça allait t'énerver, Roland, ce type d'action quand tu pousses encore une fois.
Non, et j'avais pas vu, il fait la fin du regard en plus. Ça j'aime moins. Alors que là, tu étais mené 1-0, tu dois finir proprement, t'es seul face au gardien, même pas 10 mètres du but. Ah, il fait la petite feinte du regard au moment de frapper du pied gauche. Ça, j'aime moi.
On en reste 1-0 pour Nantes qui est réduit à 10 à Monaco. La plus belle occasion pour les Monégasques avec Akliouche qui vient de frapper juste à côté, 37 minutes. On revient dans un instant pour la fin de première période. Pas de but en Allemagne. Début de seconde période entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich. Je vois le sourire de Roland. Qu'est-ce qu'il y a, Roland?
Non, parce que c'est cette histoire de passe aveugle. Quand j'entends cette expression, je dis, bon, essaye déjà de faire passes voyantes, tu vois, ou des passes de voyants. Mais pour les passes.
C'était un tir même, c'était même pas une passe.
Pour les passes aveugles, attendons même.
Ouais, t'as raison, attends de te mettre en confiance avant de tenter ce genre de choses. Il y a également du basket, la demi-finale de Leaders Cup entre Le Mans et Saint-Quentin à Caen, Arnaud Valadon.
On est dans le money time, c'est chaud, il reste 2 minutes 30, c'est Saint-Quentin qui est devant de 3 points avec un tir pris par Robinson qui est manqué. Ils vont garder le ballon, les Saint-Quentinois, eux qui font la course en tête dans cette demi-finale face au Mans. Ce match des outsiders, ils sont devant 82-79 et il reste 2 minutes 10. 7 à suivre dans cette partie. 19 points pour Nolan Traoré, la jeunesse française, lui qui sera appelé à la draft en juin prochain, aux alentours peut-être de la 10e place, les prévisions l'indiquent à ce niveau-là. Et donc Saint-Quentin qui peut peut-être réaliser un deuxième exploit parce qu'ils sont 7e au classement. Le Mans est un peu mieux classé et ils mènent de 3 points les Saint-Quentinois à 2 minutes 17 de la fin.
Et la deuxième demi-finale opposera l'ASVEL à Monaco à partir de 20h sur RMC. 19h38, on revient dans un instant à la fin de première période à Monaco. Attention Monaco à l'attaque encore, Maxime.
Ouais, ça ressemble à de l'attaque-défense là depuis quelques secondes. Et Minamino qui essaie de se retourner, qui est de nouveau dans la surface de réparation. Il va accélérer, cette fois-ci il est passé, il va centrer, mais ça va être dévié et ça finit dans les gants d'Anthony Lopez. 1-0 pour Nantes à 6 minutes de la fin de cette première période.
Allez, à tout de suite sur RMC, la fin de première période. Et puis on ira en Espagne voir ce que dit le Real Madrid après le match nul concédé à Osasuna. Nouveau but de Kylian Mbappé et encore un carton rouge pour Jude Bellingham qui a insulté l'arbitre. On en parlera avec Edgar Groslo. À tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Foot.
Benoît Boutron.
19h41, l'Intégral Foot, comme tous les samedis soirs jusqu'à 21h, la suite de la 22e journée de Ligue 1 avec le grand coach Courbis. Maxime Tilliette est en Principauté où Monaco est mené 1-0 par Nantes. Les Nantais réduits à 10. Je rappelle la victoire de l'OM 5-1 face à l'AS Saint-Etienne cet après-midi. Marseille, seul deuxième du championnat. Maxime, j'ai un message pour toi sur le direct studio je vais te lire dans un instant juste après l'attaque monégasque, une nouvelle fois.
Ouais, mais la passe de Lamine Camara, elle est un peu trop dans le dos devant Anderson, qui est obligé de faire quelques pas en arrière et de perdre l'avance qu'il avait au départ de l'action. Lamine Camara de nouveau trouvé, qui a essayé d'alerter Minamino, mais les Nantais écartent le danger encore une fois.
Alors Denis nous dit sur le direct studio, tout d'abord merci à Maxime Tilliette pour ses commentaires.
Fidèle
ensuite,
Denis.
Ça pue pour Adi Hutter, on est catastrophique, j'ai honte, je n'ai pas les images, mais j'imagine le match qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que tu peux lui dire à Denis qui nous écoute et qui voit rien pour le moment?
Eh ben écoute, Denis, ça pue pour Adi Hutter, ce sont tes termes, mais c'est loin d'être faux, même si là, attention, Minamino qui accélère, il a le contre-favorable, sa frappe en revanche est finie dans le petit filet, et sans inquiéter, c'était dans un angle impossible, là, pour inquiéter Anthony Lopez, qui va prendre tout son temps pour effectuer son 6 mètres. 3 minutes à jouer dans cette première période. On va rappeler, que Mathis Sablin a ouvert le score à la 5e minute, il avait déjà touché le poteau quelques secondes avant pour les Canaries. À la 8e minute, Nicolas Kozza s'est fait expulser, et donc depuis, eh bien, les Canaries évoluent à 10 contre 11, subissent, mais bon, il a fait deux arrêts sans non plus avoir trop à pas briller Anthony Lopez face à des Monégasques qui bien s'exposent aussi parce qu'on a vu que les Nantais étaient capables de, pourquoi pas, en planter un deuxième en contre-attaque. Et oui, en effet, ça se complique pour Adi Hutter avec la dynamique qui n'était déjà pas très bonne et qui là en plus, alors ok, ce match tombe entre le match aller de Benfica et le retour Benfica. On le sait, c'est l'événement pour cette équipe, c'est le rendez-vous, ce dont on parle depuis plusieurs semaines, les retrouvailles avec le Benfica Lisbonne contre qui il y avait eu un match très fort en émotion lors de la première partie de saison. D'ailleurs, on a vu les émotions, elles n'ont pas été très bien contrôlées par les Monégasques lors du match aller mercredi. Il y aura 3 suspendus pour le match retour, il y aura des blessés, ainsi de suite. Et ce match contre Nantes avait tout l'air d'un match piège. Arrivé comme ça entre les deux rencontres. Attention, Minamino, encore une fois, qui va rentrer dans la surface de réparation, le centre au premier poteau, l'égalisation, Sinemika Biarritz, et voilà, il fallait quelqu'un pour sonner la révolte, et c'est l'attaquant danois arrivé, cet Ever qui va égaliser. Il a bien jailli au premier poteau pour dévier subtilement le ballon au détriment de Lopez et de Nicolas Palois, et donc Monaco qui égalise juste avant la mi-temps. On promettait la crise au Monégasque, et c'est peut-être Mika Biarritz qui va éviter cette crise-là, en tout cas un partout entre Monaco et Nantes, et les Nantais réduits toujours à 10 depuis l'expulsion de Nicolas Kozza.
Et une magnifique finition d'avancante, l'appel contre appel, il trompe le défenseur et sur la passe de Minamino il vient inscrire ce but, un partout, un but qu'il n'a même pas célébré, Maxime, d'ailleurs. Là on n'est même pas satisfait de la prestation, on veut vite prendre
lui-même
l'avantage.
Il dit qu'il n'est pas très fort en célébration de but, ni même pour marquer des jolis buts. C'est vraiment un garçon atypique, Mika Biarritz, qu'on apprend à découvrir depuis quelques semaines.
Sortie bizarre de Lopez.
Anto Lopez, c'est pas la plus belle sortie qu'il a fait de sa carrière. Mais c'est vrai, Mika Biarritz, il avait dit je suis Haaland ou Kane en nul. nul. Quand il
arrive à un mélange entre un mauvais Haaland et un mauvais Kane.
C'est bon, ça, quand même.
Bon, en tout cas, c'est déjà son cinquième but, hein, voilà. Sous les couleurs monégasques. Attention, Minamino, encore une fois, à la volée! Et ça fait deux! Monaco qui retourne le match en une poignée de secondes. Oh, Minamino, il avait été trouvé et il enchaîne avec une volée. Elle n'était pas facile. Le ballon qui lui arrive dans le dos et la volée en une touche à l'instinct de Minamino qui trompe Anthony Lopez. Et Monaco renverse ce match en quelques secondes. Pas impérial, Anthony Lopez encore une fois sur ce coup. Et Minamino qui était muet depuis son doublé en Ligue des Champions face à l'Étoile Rouge de Belgrade au mois d'octobre, et bien fait filoche ce soir face aux Canaries. La belle ouverture, il me semble, de Lamine Camara. Et pas évident cette volée plat du pied pour tromper Anthony Lopez, ouais, là qui n'a pas la main ferme, il touche le ballon. Ouais, le plan derrière le but n'est pas favorable.
C'est pas seulement la main ferme, c'est déjà pourquoi il plonge.
Ouais.
Il plonge en l'air.
Même sans sauter, il peut la capter.
Mais je sais pas.
Non, mais là, ça ternit sa prestation parce qu'il était bon depuis le début du match. Là, il fait deux erreurs coup sur coup, Maxime, Anthony Lopez.
Oui, c'est clair. Il avait fait notamment une belle parade sur la frappe de Benseguir, une belle claquette sur celle d'Akliouche. Et là, en revanche, il cède par deux fois.
Moi, il me tarde pour lui, pour qu'il puisse revenir dans la match, d'avoir un arrêt à faire rapidement.
Pour se rassurer.
Parce que là, ça doit faire deux bosses sur la tête. Quand
c'est un sacré coup dur pour Nantes, globalement, hein, Maxime. Il menait au score, il était sur rouge, et là, il vient d'encaisser deux buts coup sur coup.
Là, c'était l'entame de match quasi parfaite, hein, avec ce but dès la cinquième de Mathis Sabine. En revanche, Nicolas Kozza avait pris rouge à la huitième. Et derrière, ils ont beaucoup subi, même si ils arrivaient à créer le danger, hein, en contre-attaque, notamment par la vitesse de Moses Simon et de Mathis Sabine, qui d'ailleurs a pris un carton jaune il y a quelques instants. Et là, ouais, les deux buts coup sur coup de Mika Biret et de Minamino. Minamino d'ailleurs, passeur décisif sur l'égalisation et buteur sur le but du 2-1 pour les Monégasques. Ça va leur faire du bien, hein, au moral avant de regagner le vestiaire au Monégasque, qui évidemment continue d'attaquer, hein, pour essayer de se mettre pourquoi pas à l'abri. Il y a 2 minutes de temps additionnel, déjà 1 minute 40 de passé avec les Monégasques et Benseguir qui lève la tête pour pourquoi pas créer une dernière situation avec le renversement. C'est bien fait pour aller chercher à Cliouche côté droit. Il y a Vanderson, mais bon, ça manque de changement en rythme, hein, malgré tout. Allez, c'est la fin de première période, on va être un petit peu indulgent, peut-être que physiquement ça commence à tirer. Oui, c'est vrai, ils sont un petit peu libérés d'un poids en étant devant désormais. Il va tomber dans la surface de réparation, mais il n'y aura rien. Le jeu se poursuit avec les Nantais qui ont mis le pied sur le ballon, le long ballon. Oh, il y a un gros duel là entre Ablin et Kerrer. Pas de faute, il y aura une touche et on devrait sans doute en rester là pour cette première période. Voilà, monsieur Léonard qui renvoie tout le monde au vestiaire. C'est la mi-temps ici à Monaco, match première période, un rebondissement avec l'ouverture du score de Mathis Ablin pour les Canaries. Nicolas Kozza, le Nantais, s'est fait expulser à la 8ème et derrière, en l'espace de quelques secondes, Mika Biret et Takumi Minamino ont donné l'avantage à l'AS Monaco. C'est la mi-temps ici au Stade Louis II.
Merci Maxime, à tout à l'heure pour la seconde période. Monaco qui a totalement inversé le cours de cette rencontre. On va débriefer justement cette première mi-temps dans un instant avec le coach Courbis. Détour par le basket. Roland à Caen, ça y est, c'est le Money Time Baby entre Saint-Quentin et Le Mans dans cette demi-finale de Leaders Cup. Arnaud Valano.
Et ça a failli être overtime prolongation, mais non, Le Mans qui était encore mené de 6 points à 1 minute 30 de la fin s'impose 88-85, a renversé totalement la situation, que c'est cruel pour Saint-Quentin qui a fait la course en tête. Mais Le Mans sera en finale de la Leaders Cup demain grâce notamment à son meneur américain auteur de 2 paniers à 3 points excessivement précieux. 29 points pour Hodgkins, donc Le Mans qui sera en finale demain 19h de la Leaders Cup, et attend de savoir si ce sera l'Asvel ou Monaco qui joueront tout à l'heure.
Merci Arnaud, bah, tout à l'heure, hein, parce que c'est la deuxième demi, voilà, entre l'Asvel et Monaco, une affiche plus sexy, donc on suivra ça, donc ce match entre les Villeurbanais et les Monégasques. 19h48, on vous l'a dit, Monaco mène 2-1 contre Nantes à la mi-temps en Principauté, en Paris sur la seconde période.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Et on parie avec notre expert en paris sportif stéphanois, Christophe Penet. Salut Christophe.
Bonsoir Benoît, bonsoir coach, bonsoir à tous.
Je n'ose même pas te regarder, non. Mon pauvre. T'as souffert. Ah ouais, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu nous conseilles sur ce Monaco-Nantes en deuxième période ?
Alors, j'avais pas mal de choses à vous dire avant la réaction monégasque, donc j'ai un petit peu changé mes plans. Ouais. Monaco désormais archi favori, bien sûr, 1-0-6 la victoire de l'ASM, 12 le match nul, 48 la victoire de Nantes, hein, réduit à 10 depuis pas mal de minutes. Du coup, je vais vous proposer Monaco qui s'impose par au moins 2 buts d'écart, c'est coté à 1-34. Monaco gagne et plus de 3,5 buts dans le match, c'est 1-80. Monaco qui marque le 4e but, c'est coté à 1,27. Mmh. Et j'ai envie de moi vous proposer le 4-1 qui est coté à 4,10.
Pas mal. Roland, qu'est-ce qu'on conseille aux parieurs?
Deux scores précis, le 3-1 ou le 4-1.
3-1, c'est 3,50. Le 4-1, c'est 4,10. Et on peut s'amuser sur les buteurs. Hein. Akliouche ou Biret en seconde période, c'est 1,80. C'est pas énorme, mais ça peut être sympa.
Ah, c'est pas mal, Akliouche ou Biret, t'as dit, qui a marqué qui est le but de l'égalisation. Merci Christophe, tous les conseils à retrouver sur rmcsport.fr.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
19h50 sur RMC, l'intégral foot. On revient dans un instant pour la seconde période de ce Monaco-Nantes. Également pour filer en Espagne, retrouver Edgar Grollo. Encore un match délicat pour le Real Madrid, accroché par Osasuna à Pamplune. Un but partout, un but pour Mbappé, un carton rouge pour Bellingham et une nouvelle polémique autour de l'arbitrage. On vous raconte tout ça dans un instant. Ne bougez pas.
RMC Intégral Foot.
Benoît Boutron.
19h51 sur RMC. Roland Courbis est là. C'est l'Intégral Foot comme tous les samedis soirs de 19h à 21h. La 22e journée de Ligue 1 à l'honneur. Marseille à Étrier, Saint-Etienne 5-1 cet après-midi. Ce soir, c'est Toulouse-PSG. On vous présentera le match dans une vingtaine de minutes avec Romain Malric et Jeannot Rességuier. Puis c'est la mi-temps à Monaco. C'est Monaco qui mène 2-1 face au FC Nantes avec, il faut le dire, coach Courbis. Deux erreurs pour Anthony Lopez qui jusque-là avait fait un bon match.
Hein, ben oui, disons que depuis qu'il est à Nantes aussi, là, ça peut arriver au meilleur et au plus expérimenté, la preuve. Mais c'est vrai qu'il me tarde de le voir faire un bel arrêt là, sur les prochains ballons pour justement qu'il revienne en confiance, parce que c'est pas amusant du tout déjà d'être à 10 contre 11 et en plus de faire deux erreurs sur les deux buts encaissés. Deux minutes avant la mi-temps, c'est abominable.
Tiens, à l'étranger, 0-0 toujours entre le Bayern Leverkusen et le Bayern Munich après 65 minutes de jeu. 0-0 en Espagne entre l'Atlético et le Celta Vigo. Carton rouge d'ailleurs dès la cinquième pour l'Atlético. C'est Barrios qui a pris ce carton rouge. Justement, on file retrouver Edgar Grollo.
C'est quand même... excuse-moi.
Non, je t'en prie.
La journée des cartons rouges.
Ah, c'est la journée des rouges en France ou en Espagne. Salut Edgar.
Salut coach, salut Benoît, salut à toutes et à tous. C'est la journée des cartons rouges en Espagne parce que pour l'instant il y a eu 4 matchs dans cette journée et encore le dernier n'est pas terminé. 4 cartons rouges, voilà, un carton rouge par match.
Et encore une polémique pour le Real Madrid avec les arbitres espagnols. Ce match à Osasuna cet après-midi, Osasuna qui est 7ème de Liga. Ça avait bien démarré pour les madrilènes avec l'ouverture de score de Mbappé. Et il y a eu cet événement en première période,
oui.
Cette altercation entre Bellingham et l'arbitre. Et là tout a changé Edgar.
Oui, il faut comprendre le contexte. Il y a eu plusieurs situations litigieuses dans la surface de réparation de Osasuna, des contacts sur Vinicius notamment, un autre sur Bellingham. Et Bellingham va se plaindre à l'arbitre. Et il a ces mots. On a le droit de dire des gros mots si c'est en anglais ou pas?
Vas-y. Dis-le qu'une fois alors, s'il te plaît.
Il dit fuck off à l'arbitre. En tout cas, c'est ce qu'il estime avoir dit et c'est ce que Movistar aussi, le diffuseur, a compris en lisant les lèvres du joueur. Et l'arbitre lui met un carton rouge et ce que dit l'arbitre c'est qu'il lui a dit fuck you, ce qui
il a pris pour lui, quoi.
Forcément dans le niveau de violence des propos. Ancelotti a dit qu'il n'avait rien à reprocher à Jude Bellingham parce que il disait simplement que c'est une erreur de traduction de l'arbitre. Toujours est-il que l'arbitre a mis carton rouge direct, même pas de carton jaune. Après, tous les joueurs du Real, Vinicius, Mbappé notamment, sont venus autour de l'arbitre pour lui dire mais mettez un carton jaune dans ce cas-là. L'arbitre n'a rien voulu savoir, il a mis un carton rouge. À noter quand même que c'est un récidiviste, hein, Jude Bellingham, dans le genre, puisqu'il avait déjà insulté l'arbitre ou en tout cas eu des mots injurieux envers l'arbitre lors du derby madrilène. Et là, ça fait un nouveau scandale, pas seulement à cause du rouge, aussi à cause d'autres décisions litigieuses, des pénalties qui auraient pu être sifflé pour le Real, en tout cas sur des situations litigieuses. Et puis ce pénalty accordé à Osasuna qui permet à Budimir d'égaliser à la 58e sur une frappe non cadrée de Budimir, et Kamavinga vient mettre une semelle. L'arbitre revient après vérification de la VAR pour mettre un pénalty à Osasuna. Carlo Ancelotti s'est pris un carton jaune dès le début du match pour contestation. Il a rigolé au moment où le pénalty avait été sifflé pour Osasuna. Et là, je peux vous dire que dans tous les médias espagnols, les tribunes s'enchaînent pour crier au scandale, en tout cas dans les les médias madrilènes.
Alors, il y a de l'exaspération au Real Madrid. Ce qui est fou, Roland, quand même, c'est de voir des joueurs aussi expérimentés et aussi forts, enfin, avec de telles personnalités et de telles carrières comme Bellingham ou Vinicius, s'énerver systématiquement contre les arbitres. C'est quand même fou de ne pas réussir à se contrôler, quand même.
C'est fou. Et peut-être, bon, ben, c'est des joueurs qui sont tout simplement mal habitués.
Oui, tu veux dire que ça tourne plus dans le sens du Real, quoi, c'est ça?
Qu'est-ce qui se passe, là?
Et on a regardé le match ensemble. Pour toi, il n'y a pas péno pour Osasuna contre le Real? Cette faute de Camavinga, une fois que le ballon est parti?
Je pense que tu peux siffler les pénaux, là.
Voilà, il n'y a pas de scandale, quoi.
Ah ben non. Ouais. Si justement tu siffles pas, ben là, une fois de plus, il va y avoir quand même. Sacré commentaire.
Qu'est-ce qu'on en dit en Espagne? Il y a pénalty évident ou quelles sont les réactions?
Je pense que sur ce match-là, c'est surtout l'accumulation des situations litigieuses qui, ouais, à chaque fois, voilà, il se trouve qu'à chaque fois, c'est allé dans le sens d'Osasuna. Maintenant, il y a aussi des réactions et je pense que coach a raison quand il dit les joueurs sont mal habitués. À la deuxième minute, vraiment l'une des toutes premières actions du match, Vinicius Junior, il fait un enchaînement absolument magnifique dans la surface de réparation. Il met son adversaire au sol et son adversaire touche le ballon de la main, mais avec sa main d'appui, c'est-à-dire la main qui le servait d'appui sur le sol. Et c'est pour ça que l'arbitre ne donne pas de pénalty. Sauf que le joueur était au sol, Vinicius a le ballon absolument seul dans la surface, il peut aller vers le but, et plutôt que continuer son action, il s'arrête net et il regarde l'arbitre alors qu'il avait le ballon et il n'avait pas un défenseur à 2 mètres. Et donc je pense effectivement, comme dit coach, que les joueurs sont mal habitués et je pense que surtout ça illustre bien la situation et l'anxiosité qu'il y a autour de l'arbitrage en Espagne. On voit des scandales partout, même si il faut dire aujourd'hui quand même, entre Osasuna et le Real, il y a quand même des situations très qui laissent place au débat en tout cas, et je comprends sur ce match-là que le Real se plaigne, mais en fait tout est sujet aujourd'hui aux simulations, tout est sujet au fait de se plaindre, au fait de contester. Les arbitres aussi, ça se voit, sont plus nerveux, c'est pour ça aussi
qu'on n'aide pas les arbitres, quoi, c'est ça.
C'est vraiment un climat très 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 toxique en Espagne, même pire qu'en France,
hein. Edgar, si on se concentre sur le jeu, est-ce que le Real a fait un bon match cet après-midi?
Sincèrement, c'est très difficile de se concentrer sur le jeu aujourd'hui. C'était tellement haché, c'était tellement même tous les journalistes en direct sur le match qui ne parlaient que de l'arbitrage en Espagne. Dans le jeu, en plus, ils ont été à 10 contre 11 pour la majorité du match. C'est difficile de tirer quelque chose du jeu sur ce match-là. Kylian Mbappé est toujours en forme, ça c'est sûr, on l'a vu.
Même bon, si but encore, d'ailleurs, pour Mbappé.
Oui, avec Valverde qui récupère le ballon côté droit, il centre et Kylian qui est dans le bon tempo, qui plonge pour
un but terminer
le but à bout portant. Ouais. Exactement. Après, il aurait pu tuer le match en toute fin de match. Il a eu la balle de match dans le temps additionnel où il fait une superbe contre-attaque et derrière il termine pas. Je trouve que c'est un petit peu là où a pêché le Real encore aujourd'hui. Vinicius, pareil, quelques actions où il dribble plusieurs joueurs et il arrive pas à terminer l'action. Mais on a senti des joueurs tellement omnubilés, et même le coach, hein, même Carlo Ancelotti, tellement omnubilés par l'arbitrage.
Ah ouais.
Que finalement on en perd vraiment du foot, alors que voilà, le match par exemple, le derby, bon, c'était pas un match de dingue, mais les joueurs restaient dans leur match. Là aujourd'hui, sincèrement, c'est presque que ça qu'on retient.
Alors si jamais l'Atlético s'impose face au Celta Vigo, l'Atlético pourrait prendre la tête de la Liga, mais l'Atlético est à 10 et je crois qu'ils viennent de concéder un penalty, donc on va suivre ça aussi dans un instant au Wanda Metropolitano. Mais donc penalty à confirmer donc pour le Celta Vigo sur la pelouse de l'Atlético Madrid. Merci Edgar d'avoir été avec nous, en tout cas.
Merci messieurs.
Bonne soirée. Salut à toi. Edgar. Et on attend avec impatience le match retour entre le Real et City, hein, en Ligue des Champions. Victoire 3-2 des Madrilènes cette semaine en Angleterre. Match retour au Bernabeu. Merci Edgar.
À très vite.
Bye bye. 19h59, je rappelle que Monaco mène pour l'instant 2-1 face au FC Nantes. On aura également de la Ligue 2 dans quelques secondes. C'est la suite de cette journée. Roland, ça ne t'a pas échappé, mais Dunkerque a battu le Paris FC cet après-midi. Ben quel parcours de cette équipe dunkerquoise, victoire 1-0.
C'est pas seulement les points qu'ils arrivent à avoir et à récupérer, c'est la façon dont ils jouent.
Exactement.
Là, je salue cette équipe-là et les responsables qui ont su choisir ces joueurs et la complémentarité qu'il peut y avoir entre ces joueurs.
D'abord Dembaba, qui est directeur sportif donc de Dunkerque.
Ben oui.
Dans un instant, le choc entre Guingamp 5e et Metz 4e. On le suivra avec Xavier Grimaud et puis on revient pour la seconde période de ce Monaco-Nantes. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot.
Benoît Boutron.
20h tout pile sur RMC. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. L'Intégral Foot Ligue 1 jusqu'à 21h, la suite de la 22e journée. Marseille a battu Saint-Etienne 5-1. Monaco mène 2-1 face à Nantes en principauté. Les Nantais réduits à 10 alors qu'ils avaient ouvert le score. On va retrouver Maxime Tilliette d'ici quelques secondes. En Europe, le Celta Vigo vient d'ouvrir le score sur la pelouse de l'Atlético de Madrid. L'Atlético réduit à 10, donc 1-0 pour le Celta Vigo. Et puis en Allemagne, 0-0, Roland toujours entre le Bayern Munich et le Bayern Leverkusen. Un match très fermé, c'est surprenant d'ailleurs.
Ben oui, on s'attendait à voir des buts. Et puis pour le moment, il y a un beau 0-0.
On suit également la Ligue 2 avec la 23e journée et cette affiche entre Guingamp et Metz à Roudourou. On retrouve Xavier Grimaud. Salut Xavier. Est-ce qu'il est là, Xavier? Bon, on va le retrouver dans un instant. Xavier Grimaud. Ah, il est là, bah oui, je l'entends.
Oui, je suis là, vous m'entendez?
Ça y est, on t'entend.
Allez, salut Benoît, salut Roland, bienvenue salut. À Roudourou. 2 minutes de jeu entre Guingamp et Metz avec des enjeux de haut de tableau, notamment pour les Messins qui pourraient reprendre seule la deuxième place au Paris FC en cas de victoire ici à Guingamp. Ils ont été deux fois seulement deuxième, les Messins, c'était il y a 3 journées. Et eux qui visent évidemment la remontée directe. Et puis Guingamp qui joue bien, Guingamp qui est toujours en quart de finale de Coupe de France, ils joueront à Cannes. Il y a une fin de saison qui est excitante, mais ils n'arrivent pas à battre les gros. Pour l'instant, il y a un plafond de verre, c'est 2 défaites face au PFC, 1 défaite face à Lorient, 1 défaite face à Metz au match aller et 1 match nul face à Dunkerque. Donc il faut casser ce plafond de verre pour les Guingampais, mais voilà, c'est de la haute voltige. En tout cas, c'est l'autre tableau ce soir pour ce match de Ligue 2 entre Guingamp et Metz. 0-0, quasiment 3 minutes de jeu à Roudourou.
La pelouse tient le coup pour l'instant parce qu'il y a eu ce match de
Coupe d'Europe. Elle est fatiguée. Il y a beaucoup de matchs dessus. C'est notamment l'une des raisons pour laquelle Saint-Brieuc va se délocaliser au Roazhon Park pour jouer le Paris Saint-Germain dans une dizaine de jours. Alors c'est vrai que le stade aussi est plus grand, mais non, elle est fatiguée cette pelouse. Ils ont du mal à la retaper, mais bon, voilà, c'est correct. Mais elle est pas verte partout, on va dire. Voilà, mais la Ligue des Champions. J'allais dire c'est terminé, oui, je pense que c'est terminé. On va
passer. A priori, il y a peu d'espoir. Hein. Défaite 3-0 à l'aller face au PSG.
A priori.
Ouais, faut gagner 4-0, pas. Pourquoi pas. Bon, toi, t'y crois.
Il y a un petit billet à mettre, Roland. Est-ce que tu mets le billet, Roland, sur la qualification de Brest? Non.
Pas tout à fait.
Énorme cote, ouais.
Je peux dire allez, non,
3 minutes de jeu 0-0 entre Guingamp et
Metz. Bon, ça marche. Retour en principauté avec un changement côté Nantais avant le début de la seconde période, Maxime Tilliette.
Oui, l'entrée de Marcus Coco qui va se positionner latéral droit, la sortie de Jean-Charles Castelletto et les Nantais qui donnent le coup d'envoi de cette seconde période qu'on espère aussi riche en événements que la première. Les Monégasques qui mènent 2-1 mais qui ont couru toute la première période après le score, puisque Mathis Sablin avait ouvert la marque à la 5e minute, Nicolas Cozza s'est fait expulser à la 8e et les Monégasques en l'espace de 1 minute 10 ont marqué par deux fois juste avant le retour au vestiaire. Des buts signés Mika Biret et Takumi Minamino, et donc changement non pas tactique mais du moins on refait basculer Kelvin Amian au poste de latéral gauche avec l'entrée donc de Marcus Coco et les Nantais qui ont le pied sur le ballon et la première incursion pourquoi pas avec le côté droit Coco justement on combine avec Mathis Sablin le penant, on va repartir vers l'arrière la 46e 2-1 pour Monaco face à Nantes.
Roland, tu t'attends à quel type de seconde période? Tu penses que la domination monégasque va s'accentuer là?
Disons que bon, je suis quand même encore surpris parce que même si ça fait que démarrer, je vois cette équipe de Nantes jouer assez bien. Alors, j'attends avec impatience le troisième but, mais la possibilité quatrième. D'une égalisation, oui, la possibilité d'une égalisation de Nantes, je serais pas étonné parce qu'ils essaient de jouer dès qu'ils en ont la possibilité.
L'enjeu, ouais. Maxime, c'est de pas s'endormir pour Monaco aussi.
Ah oui, très clairement. Faudrait pas se dire que là, c'est bon, le plus dur est fait. Maintenant, en supériorité numérique, mener 2-1 et commencer à penser au match de mardi, ce déplacement. Alors que là, le jeu est arrêté parce que Lamine Camara a été touché. Il a perdu sa chaussure. Donc ça va plus de peur que de mal pour ces Monégasques qui iront en plus à Lisbonne sans Zakaria suspendu, sans Vanderson suspendu, sans Al-Mousrati suspendu puisqu'il a pris rouge lors du match aller mercredi. Et puis en plus, on ajoute à ça Golovin qui est blessé aux adducteurs et Magassa qui a une fracture au niveau du visage. Ça reste à déterminer si c'est au niveau de la pommette ou non. Attention à Cliouche, le crochet, encore une fois, c'est bien fait, mais le centre, il est capté. Par Anthony Lopez.
Qui a plus de chances que Benfica se qualifie que Brest.
Oui, Ouais, Benfica a gagné 1-0 à l'aller en Principauté. D'ailleurs,
pourquoi on suit. Il n'y a qu'un but.
On suit le match de Benfica à Santa Clara. C'est ton club portugais préféré, Roland, Santa Clara. 0-0 pour le moment entre les deux équipes. Donc, Benfica qui prépare la réception de Monaco en Ligue des Champions. Petit détour par la Ligue 2.
C'est bien fait encore à Cliouche. C'est bien fait encore à Cliouche.
Cliouche, bon match.
Vanderson. Ouais, il fait vraiment un bon match, mis à part sa finition là sur son petit numéro. Il avait mis dans le vent sur son crochet Nicolas Palois. En revanche, la finition derrière, la feinte du regard n'était pas nécessaire. Il a loupé le cadre. Ça va basculer côté gauche avec Caio Henrique. Désormais, le centre qui va être contré. Ça va filer en corner pour les Monégasques.
Tiens, détour par la Ligue 2, par le Roudourou. Guingamp face à Metz, Xavier Grimaud.
Ouais, avec des premières incursions guingampaises, proche des buts d'Arnaud Baudard le Belge, avec notamment la bonne passe d'Alpha Sissoko pour Théo Lebris, la recrue du Mercato prêtée par le FC Lorient et qui réussit ses débuts hein, puisqu'il a déjà été buteur pour son premier match et il est titulaire là sur le côté droit. Il y a peut-être un bon ballon pour Brighton là-bas, il y aura faute au départ sur Mboula le Gabonais, mais voilà, on va dire que les Guingampais ont bien débuté cette rencontre au sommet pour essayer d'aller chercher cette équipe de Metz. Toujours 0-0 entre Guingamp et Metz. 7 minutes.
Allez, on retourne en Principauté. On ira au Stadium de Toulouse. Dans un instant, on retrouve Jeannot Rességuier et Romain Malric pour le Toulouse PSG qui va démarrer dans moins d'une heure sur RMC dans l'After Live. Mais retour en Principauté avec Monaco qui pousse pour mettre le troisième but.
Maxime. Direct qui combine à gauche. Et le but, le voilà. C'est Céliel et Sben Seguir. Bien décalé côté gauche. Par Takumi Minamino après le bon travail de haut but de Mika Biret et les Monégasques qui font le break 3-1. Ça aurait été compliqué hein, la fin de première période et début
soir,
de seconde alors, pour les Nantais.
C'est vraiment pas son soir Lopez, parce que bon.
Ah là, premier poteau.
Avec le pied, il peut quand même la sortir. Il a failli la sortir, mais quand je te dis c'est vraiment pas son soir, ben ça arrive, c'est comme ça. Regarde bien l'image.
L'action collective est magnifique.
On regarde là.
Ah ouais, il a pas le droit. Il apprend premier poteau, il doit la dévier au moins du pied.
C'est quand même bizarre. Hein.
Ouais, ça fait beaucoup pour Anthony Lopez ce soir et ça fait 3-1 pour l'AS Monaco. Drôle de situation d'ailleurs hein, pour les gardiens de but Roland à Nantes. On rappelle qu'Alban Lafont est écarté hein, pour l'instant du groupe. Enfin, en tout cas, il s'entraîne avec les pros, mais il est jamais sur les feuilles de match. C'est pas lui le numéro 2. C'est particulier, hein, Anto Lopez venu pour être numéro 1 et Anto Lopez en difficulté. Comment ça peut s'arranger cette histoire, Roland, à ton avis?
Difficilement, là, je te promets, j'ai pas la solution.
t'aurais pas envie de gérer ça si t'étais entraîneur du FC Nantes, quoi, c'est ça. Et Monaco continue en plus, d'ailleurs, Maxime. Hein.
Ouais, là en revanche le centre d'Elias Ben Seguir va être totalement raté et ça va filer en 6 mètres pour donc Anthony Lopez qui en effet loin d'être irréprochable sur les 3 buts marqués par l'AS Monaco ce soir. Monaco qui a été mené 1-0 et qui donc désormais mène 3-1 même si les Nantais ont été réduits à 10 dès la 8ème minute avec l'expulsion de Nicolas Cotin.
On va rester avec toi, Monaco-Nantes, donc le carton rouge pour les Nantais. Ce match si compliqué qui était très bien parti au départ. Nantes qui va devoir quand même surveiller les concurrents directs parce que évidemment c'est la course au maintien pour les Nantais et donc c'est une défaite qui se profile pour le FC Nantes. Une victoire aurait fait beaucoup de bien, une défaite les laisse en difficulté, Maxime, les Nantais.
Ouais, très clairement. Et on parlait tout à l'heure en avant-match, c'est le troisième plus mauvais bilan comptable de l'histoire du FC Nantes en Ligue 1 avec seulement 21 points après eh bien 21 journées et ce soir 22 journées même. Avant cela, il y avait eu 2006-2007 avec 20 points où Nantes avait fini dernier, 20e de Ligue 1. Et puis 2020-2021, ils avaient fait seulement 18 points et s'étaient maintenus après les playoffs dans une folle mission sauvetage. C'est un début de saison même au-delà puisque 22 journées, on peut même parler plus que d'un début de saison très compliqué pour ces Canaries qui avaient connu malgré tout une période sur les 5 précédents matchs avant de rechuter hein. Il y avait eu des points pris avec notamment des victoires à Reims, des points pris contre Lyon, contre Nantes,
oui, après les rumeurs de départ
contre Saint-Etienne,
c'est vrai.
Et oui, il y avait eu une série plutôt pas mal et là il y a eu la rechute à la Beaujoire le week-end dernier avec la réception de Brest pour ces Nantais qui sont donc juste au-dessus de Saint-Etienne, 3 points d'avance
tout de même sur les Stéphanois qui sont barragistes. Et attention aussi à la différence de but. Saint-Etienne a pris 5-1 tout à l'heure sur la pelouse de Marseille. On va suivre tout de même la fin de cette rencontre pour voir si les Nantais tiennent bon ou prennent l'eau, parce que réduit à 10 contre 11 face à des Monégasques qui vont sans doute pousser, ça peut être compliqué, même si là il y a du grabuge avec Ablin et Zakaria qui sont au sol, et le jeu va être arrêté par monsieur Léonard. 3-1 pour Monaco à la 52e.
Petite stat pour Roland qui est un grand fan de Mathis Ablin. Ablin, c'est le meilleur buteur de Ligue 1 contre les 5 premiers du championnat.
Ah bah tu vois,
ouais, il marque toujours contre les gros, Mathis Ablin, et il l'a confirmé puisque c'est lui qui a ouvert le score tout à l'heure en principauté.
Bah oui, c'est bizarre ça. Sa vie professionnelle, dans le sens qu'il était à Rennes avec des difficultés pour s'imposer. Mmh. Alors que bon, après, chacun voit les choses à sa façon. Moi, des fois, je me trompe, mais sur Ablin, je le trouvais toujours très, très intéressant.
Alors, je crois que la particularité à Rennes, c'est que c'était la génération d'avant Matistel. Et on comptait sur Matistel qui, finalement, a été vendu au Bayern Munich, rappelle-toi. Donc,
ben
toi,
oui. Mais
il appartient toujours à Rennes, hein.
Ouais.
Non, il a été transféré.
Ah non, il a été transféré.
Même une somme.
Dites pas ça devant Xavier, hein, il va vous reprendre de voler. Hein,
une somme assez impressionnante pour les Nantais.
10 millions d'euros. Hein,
ah, oui, 10 millions, ouais. Ah oui, bel investissement. Bah oui, parce que Comboiré l'adore.
C'est le plus gros transfert de Nantes, hein, il me semble. Et ah oui, très, 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 très bien vendu, hein, pour le stade Rennes, effectivement.
Tu sais pourquoi, Xavier, on ne l'avait pas gardé à l'époque à Rennes? On y croyait pas.
Ah, ça fait 4 pour Monaco, et ce sera un doublé pour Mika Biret, qui a arrêté d'un ballon au point de pénalty et qui a fini d'un plat du pied. Là, cette fois-ci, en revanche, Anthony Lopez n'y peut rien. Et donc, 4-1 pour Monaco, qui se facilite encore plus la tâche. Les Monégasques, en plus, à 11 contre 10 Nantais. Et on ne joue que la 54e. Attention à la différence de but qui compte. On sera peut-être dans la mission maintien des montées en fin de saison.
Absolument.
Ouais, et l'incidence de ce carton rouge, on vous l'avait dit dès le début avec Roland, Kotza, alors que Nantes menait 1-0, a pris le rouge direct. Et là, c'est dur pour Nantes. Doublé de Biret encore, Roland. Hein, et encore un doublé pour le nouvel attaquant de Monaco.
Ben oui, il est quand même assez intéressant. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est la complémentarité avec Mbolo. Ça n'a pas été une grande réussite. Ah, c'est sûr. Mais bon. Là, il retrouve confiance lui aussi. Ça, c'est bien pour le match de Benfica. Sait-on jamais, même si l'absence de Zakaria, c'est ce que j'en pense.
Ouais. On va retourner voir Xavier Grimaud. On va conclure le dossier à Ablin, mais peut-être qu'il se passe des choses
avec
entre Guingamp et
Metz. Grosse occasion d'abord pour Hugo Picard pour les Guingampais. Le bon centre de Théo Lebrun venu de la droite, le contrôle, la frappe juste à côté du but de Baudard. Oui, Ablin, alors c'est bien 10 millions d'euros, hein, pour le transfert au FC Nantes. Donc c'était une somme difficilement refusable également pour Rennes, mais il y avait beaucoup de concurrence en fait quand il était à Rennes, hein. C'est l'époque où il y a Terrier en attaque, il y a Gouiri, il y a tout ça, donc il avait que des bouts de match, il était souvent dans le groupe mais il rentrait que quelques minutes. J'ai regardé justement ses stats, il a que une titularisation, donc là il fallait qu'il trouve du temps de jeu, et ça a d'abord été à Auxerre et ensuite à Nantes. Et Mathis Ablin est nantais, hein. Il est né du côté de Nantes, donc il y avait aussi un choix du cœur. Okay. Et effectivement c'est un très bon attaquant qui continue de progresser, mais voilà, il y a du monde à Rennes et c'est dur de faire sa place.
Et puis il y a de la formation, on l'a dit, Matistel est arrivé après, hein, dans cet effectif, même s'il n'est pas resté longtemps, Xavier.
Ah, Matistel est parti avant qu'Ablin
Il est parti avant même.
Ah oui, il est parti avant que Ablin commence à être dans le groupe. Hein. Bon. Je pense qu'il est un tout petit peu plus. Alors, il est parti très jeune, hein, Matistel est parti, il avait à peine 17 ou 18 ans du Stade Rennais. Ablin a 21 ans, il est plus âgé que tel, il a deux ans de plus.
20h14 sur RMC. Petit point sur les matchs à l'étranger. Vous dire que l'Atlético Madrid vient d'égaliser contre le Celta Vigo, but de Sorloth. Donc ça fait un partout.
À 10 ils égalisent,
tout à fait, Roland. Et il y a toujours pas de but. Mais qu'est-ce qui se passe en Allemagne, Roland? On comprend rien là. 0-0 entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich. Mais
là, si tu m'avais dit que ce match-là allait terminer match nul, je t'aurais dit oui, 2-2, 3-3, mais jamais 0-0.
Rappel du temps, du score et de tout ce qui s'est passé entre Monaco et Nantes, Maxime Tilliat.
Ouh là là, tout ce qui s'est passé, beaucoup de choses avec l'ouverture du score. Allez, en 10 secondes, le but d'Ablin à la 5e pour les Nantais, l'expulsion de Kotza à la 8e, et les Nantais qui depuis subissent, avec notamment les buts en toute fin de première période de Biret et Minamino pour donner l'avantage au Monégasque, et Monaco qui a encore plus aggravé le score par l'intermédiaire de Ben Seguir et de Biret qui s'est offert un doublé. Et là, il y a un nouveau corner qui va finir dans la surface de réparation avec Kerrer à la retombée. La bonne sortie d'Anthony Lopez. 4-1
pour l'AS Monaco qui évolue en supériorité numérique face à Nantes.
Et on revient dans un instant, la suite de ces deux matchs, Monaco-Nantes 4-1, 0-0 entre Guingamp et Metz, et surtout on ira à Toulouse au Stadium pour les compos d'équipe de ce Toulouse-Paris-Saint-Germain, match qui démarre à 21h05 sur RMC. À tout de suite.
RMC Intégral Foot.
Benoît Boutron.
20h17 sur RMC, l'Intégral Foot Ligue 1 jusqu'à 21h. C'est le rendez-vous du samedi soir avec Coach Courbis, la suite de la 22e journée de Ligue 1. Monaco est en train d'exploser le FC Nantes. Maxime Tilly est en principauté.
Eh oui, on approche de l'heure de jeu, la 59e. Monaco qui mène 4-1 face aux Canaries. Les Canaries qui avaient bien démarré avec l'ouverture du score de Mathis Sablin. En revanche, Nicolas Cozza a été expulsé fort logiquement pour une semelle sur le tibia de Vanderson dès la 8e minute. Et donc, depuis, les Canaries subissent. Ils ont subi l'égalisation, puis le but de Minamino, donc Biret et Minamino, juste avant la mi-temps. Et derrière, au retour des vestiaires, eh bien, c'est Ben Seguir, puis Mika Biret qui ont permis aux Monégasques de mener 4-1 désormais. Mika Biret qui en est à 6 buts en 6 matchs pour l'AS Monaco depuis son arrivée. Il a d'ailleurs inscrit 20 buts toutes compétitions confondues cette saison et tout maillot confondu, puisqu'il a évolué sous les couleurs du Sturm Graz lors de la première partie de saison. Et là, Mathis Sablin a essayé de décaler son compère d'attaque Moses Simon, mais ça a été intercepté. Et on va faire du changement côté Adi Hütter pour gérer et préparer notamment le match de mardi soir qui va arriver vite à l'Estadio d'Alouz pour le match retour face au Benfica Lisbonne en barrage de Ligue des champions, avec Almousrati, Ileni Kena et Crépin Diata qui vont rentrer. Et on va faire sortir Minamino, sans doute Vanderson. Non, il y a Lamine Camara qui va céder sa place également, et donc il va me manquer le troisième sortant. Et en effet, c'est Vanderson. Donc Vanderson, Camara et Minamino cèdent leur place à Diata, Ileni Kena et Almousrati du poste pour poste côté monégasque.
Il a raison à 18h de faire des changements aussi précoces. Roland, le match est plié.
Ah ben oui. Ben justement, par rapport
en fonction du match de mardi.
Ouais, à se partager le boulot dans certains joueurs, à certains postes, c'est sûr que c'est indispensable.
20h18 sur RMC, la Ligue 2 également, ce Guingamp-Metz, Xavier Grimaud.
Ouais, avec toujours la domination guingampaise, mais 0-0 entre Guingamp et le FC Metz. Une grosse occasion pour Hugo Picard qui, avec la frappe qui vraiment passe très très près à des buts de Baudard. On a vu une frappe d'Emia il y a quelques instants à Minemia, la frappe qui manquait d'angle et qui était directement sur le gardien de... Attention, pardon Benoît, j'ai
il
pas
entendu. Il était pas chaud Picard.
Effectivement, avec les Messins à l'attaque et qui vont obtenir, je sais pas comment rebondir à ça, et les Messins qui vont avoir un corner.
C'est ta réaction, en fait.
qui va être tiré par Gauthier Hein. Ils ont du mal à sortir, hein, quand même, le FC Metz pour le moment. On va pouvoir suivre très rapidement le corner, si tu veux bien, avec Gauthier Hein et son pied gauche sur la gauche en regardant les buts de Basilio. Basilio qui ne sort pas, Sidi B un peu court, le ballon qui traîne au point de pénalty. Là, Sidi B, et ouh, c'est son mètre 90 qui va pouvoir dégager. 0-0 entre Guingamp et Metz.
Oh, Roland, on regarde le match allemand également. Leverkusen, Bayern Munich, quelle occasion pour le Bayern, double occasion. 0-0 toujours. Et on est dans le temps additionnel de ce match. Et c'est la spécialité de Leverkusen l'année dernière. Quelle occasion, Emmanuel Neuer qui a fait une parade incroyable, et ensuite Florian Wirtz qui frappe juste à côté. C'est fou de rater ça, Roland, d'ailleurs, hein, pour les Allemands.
Surtout à la 91e.
Ouais, c'est dingue. Le corner monégasque contre Nantes, Maxime Tilliette.
Très mal tiré et dégagé au premier poteau par Douglas Augusto. Ça va revenir, mais il y a une position de hors-jeu derrière de Marnès à Cliouche. Les Nantais qui ont un beau programme, hein, qui s'annonce avec la réception de Lens, un déplacement au Vélodrome à Marseille, puis les réceptions de Strasbourg et de Lille d'ici mi-mars et d'ici la trêve internationale. Ça va être un beau programme pour ces Canaries qui, on le disait, n'ont que 3 points d'avance, hein, sur Saint-Etienne, le barragiste de notre championnat de Ligue 1.
Douglas qui pourrait être associé à Picard, d'ailleurs. Peut-être qu'on verra ça dans le futur. 20h20 sur RMC, filons au Stadium, parce que ça y est, il est de retour chez lui, prophète en son pays. Jeannot Séguier est aux côtés de Romain Amalric pour ce Toulouse Paris Saint-Germain. Salut à vous deux.
Nul n'est prophète en son pays. Bonsoir. Il a récupéré sa chaise.
Alors, et par contre, rassure-moi, coach. Coach, bonsoir, coach. Coach, il y a un coup de clim dans le studio là, non? Il y a quelques secondes là pour que Benoît Boutron parte en vrille comme ça, non? Avec Douglas et Picard, non? On vous a envoyé le vent frais, le vent de queue de Toulouse, quoi. En fait, c'est ça. Alors, d'accord.
Moi, ce qui m'intéresse dans un instant,
mais il y a un pénalty à Monaco.
Voilà, le pénalty. Ah, et après,
je veux
que Romain nous raconte comment ça se passe quand Jeannot Rességuier débarque au stadium. Parce qu'on a vu ses selfies, photos, machin, autographes. Donc, on raconte ça dans un instant, mais le pénalty pour Monaco qui arrive. Vas-y, Maxime.
Oui, avec la faute de Nicolas Pallois qui est arrivé en retard dans le dos de Mika Biret. C'était peut-être pas nécessaire de faire cette faute pour le défenseur nantais qui ne comprend pas la décision de Monsieur Léonard alors que ça semblait assez évident. Et c'est Mika Biret qui a obtenu la faute et qui va se faire justice lui-même, lui qui a déjà marqué par deux fois ce soir et qui peut donc s'offrir son deuxième triplé en Ligue 1. Lui qui dispute seulement son sixième match sous les couleurs de l'AS Monaco. Il avait mis un triplé lors de la dernière réception ici au Stade Louis II. C'était face à Auxerre et voilà qu'il peut d'ores et déjà récidiver, ne serait-ce que deux semaines plus tard, avec donc ce pénalty face à Anthony Lopez. Pour le suspense, il n'y en a plus trop. 4-1 pour l'AS Monaco. Le pénalty à venir pour Mika Biret et son pied droit. Plein axe s'est transformé. 5-1 pour Monaco face à Nantes à la 65e. Et donc le deuxième triplé en espace de 15 jours pour Mika Biret, la recrue, l'attaquant danois, arrivé cet hiver à l'AS Monaco. Et ça va se compliquer pour les Nantais. Il reste encore 25 minutes à jouer ici au Stade Louis II.
Quand même, Roland, deux triplés en 15 jours pour Biret. Alors là, c'est un pénalty, forcément c'est différent, mais.
Non, mais ça fait rien. Les pénaltys, il faut les mettre aussi.
Ouais, donc c'est impressionnant. Il gonfle ses stats et ça fait.
Il a mis en plein milieu du but. Ouais. Bon, Lopez, il avait anticipé.
Ça t'a pas pu.
Bah, Minamino l'a mise en plein milieu aussi.
T'es
tout à l'heure.
Et Lopez
l'a
pas arrêté non plus. Ce soir, Roland. Non, ça te régale pas, là.
Ce soir, le pauvre, il est vraiment pas dans ce soir.
Ouais, exactement. Donc désormais ça fait 5 buts à 1 pour l'AS Monaco face au FC Nantes. Le temps, le score en Ligue 2, Xavier Grimaud, entre Guingamp et Metz.
Oui, on joue depuis 23 minutes et toujours 0-0.
Et retour au Stadium. Alors Romain, raconte-nous comment ça se passe quand Jeannot Séguier débarque à Toulouse au Stadium. C'est impressionnant ou pas? C'est à vivre une fois dans sa vie.
Nul n'est prophète dans son pays, mais rouge. C'est une star. Tapis rouge, tout le monde connaît. Calmez-vous, il signe des autographes, il fait des photos. Ouais, et puis surtout, les gens sont contents ici parce qu'il y a une statistique qui concerne Jeannot, c'est que le dernier match en Ligue 1 du TFC, c'était TFC Saint-Etienne, c'était en décembre et c'était Jeannot qui commentait. Depuis, le TEF n'a plus gagné en Ligue 1. Donc peut-être qu'ils se disent, ah, c'est cool, il y a Jeannot ce soir. De gagner. Si ça va être un autre match.
Et grande soirée ce soir, puisque les Toulousains vont jouer avec leur troisième maillot frappé de la violette, le symbole de la ville de Toulouse, réalisé avec Visionnaire, la marque de vêtements des rappeurs de Big Flo et Oli. Ouais. Et je peux vous dire, les gars, que c'est assez surprenant parce que pour Toulouse, c'est déjà un chiffre énorme. Ils sont pas loin des 3000 ventes depuis la commercialisation du maillot. Donc c'est vous dire que ce qu'il plaît, avec une surprise avant le coup d'envoi, on vous en parlera un petit peu plus tard. On va s'arrêter quelques secondes sur les compos parce que bien évidemment le Paris Saint-Germain, on s'attendait à un turnover, on va avoir droit à un turnover. Ça, allons-y, c'est pour le teasing.
Allons-y,
on commence par Toulouse. On commence par Toulouse.
Ah, c'est un sacré tease. Alors à Toulouse, il y a du turnover, mais par défaut, parce qu'il y a des blessés, il y a des retours de blessures, mais pas forcément titulaires. On pensait à Djibril Sidibé qui revenait en défense du côté du TFC. Il a beaucoup manqué pendant la période un peu compliquée du TFC, mais il sera sur le banc. En conclusion, Guillaume Rest reprend sa place dans les buts. Il était absent au Serre le week-end dernier. Défense à 3 habituelle, ça sera Agdak, Cresswell et Canvo. Mackenzie sera sur le banc, ça c'est une petite surprise, mais lui aussi il est peut-être un peu court physiquement. Soiseau sur le côté gauche, Denoum sur le côté droit, ça c'est classique. Au milieu de terrain, Caceres avec Vincent Siro le capitaine, et puis devant, Franck Magri à la pointe de l'attaque. Toujours zéro but pour l'attaquant du TFC. On va voir si ça peut se déclencher ce soir. Zakaria Bouklal et Xavi Babika pour l'accompagner.
Pour ce qui est du Paris Saint-Germain, j'aime bien les contre-pieds, Benoît. Marquinhos, Neves, Vitinha, Nuno Mendes, Dembélé et Gonçalo Ramos seront sur le banc des remplaçants. Ah. On rappelle que Donnarumma n'a pas fait le déplacement, c'est Safonov avec Tenas et Louis Mouquet, jeune gardien du Paris Saint-Germain de 20 ans. Ce sera Safonov qui sera titulaire, les deux autres seront sur la feuille de match remplaçant. Le brassard de capitaine pour Hakimi qui sera donc derrière à son poste à droite. Pour le reste, on aura une spéciale coach Courbis avec que des gauchers, Pacho, Beraldo et Lucas Hernandez. On a déjà vu ça avec Luis Enrique. Un milieu de terrain totalement inédit avec Ruiz, Kang In-li et le jeune Mayulu. Et dans le secteur offensif, donc Barcola sera logiquement sur le côté droit, Guevara sera sur le côté gauche et Doué sera en faux numéro 9. Voilà pour les choix de Luis Enrique pour ses compositions d'équipe de Toulouse avec Carles Martinez-Novel et le Paris Saint-Germain.
Malgré toute la liste.
Et un pénalty pour Metz dans un instant, messieurs. Okay. Pénalty, tacle très très mal maîtrisé de la part de Sohibner, le défenseur central qui fauche, c'est clair et net, hein, qui fauche Gauthier. Guingamp,
on précise, hein. Ouais.
Ouais, pour Metz à Guingamp, exactement. Et là, Monsieur Paradis, il n'a pas besoin d'hésiter parce que clairement, il avait réussi son crochet extérieur, Gauthier Hein. Et le tacle était un peu acquis tout double pour le Guingampais. Et c'est Gauthier Hein qui va essayer de se faire justice lui-même, comme on dit, et qui va tirer ce penalty. Lui qui en est déjà à 6 buts depuis le début de la saison et qui va donc faire face à Enzo Basilio pour ce penalty. Alors c'est dommage que ce soit pas Baba Carnias, le gardien remplaçant, qui soit dans les buts parce qu'il est très bon sur penalty. Ah. Il a été déterminant dans le parcours en Coupe de France, notamment des Guingampais. Là c'est Basilio qui va devoir essayer d'arrêter Gauthier Hein. Ce sera pas contre le cours du jeu, mais pas loin. Gauthier Hein, oh, il est tout près de la sortir, Basilio, mais c'est dedans. Il a plongé du bon côté, il est pas loin de la toucher. Ça fait 1-0 pour le FC Metz. Gauthier Hein pour le but messin. 1-0 pour l'équipe de Stéphane Lemignan.
20h27 sur RMC. On rappelle le temps, le score entre Monaco et Nantes, Maxime Tilliot.
Il reste 20 minutes à jouer et Monaco mène 5-1. Les Nantais sont réduits à 10 depuis l'expulsion de Nicolas Cotzin en première période.
Et on retourne au stadium. Romain Malric, Jeannot Rességuier. On est avec coach Courbis. On vous attend au 32-16, supporters du TFC et du PSG. Les choix de Luis Enrique. C'est le 12e match roulant en 2025 pour les Parisiens qui sont faciles leader de Ligue 1. Tu le comprends, ce large turnover pour Luis Enrique?
Ah ben, c'est pas que je regarde un turnover, je regarde la composition d'équipe. Et malgré la liste que nous a donnée Jeannot,
des joueurs remplaçants ou absents, hein.
Quand je vois la composition d'équipe qui va démarrer le match, ben c'est quand même une sacrée équipe.
Ah, t'as une attaque Barcola, Gvara et Désiré Doué.
Ouais, mais Désiré Doué, j'en vois que deux vrais attaquants. Après, Désiré Doué devient peut-être attaquant dans le jeu, mais ça fait un milieu fourni, quatre très, très bons joueurs. Les quatre défenseurs, c'est vrai qu'il y a les trois gauchers, mais bon, ils vont se démerder quand même. Zvara, ben, qui lui aussi doit s'imposer depuis son arrivée. Non, je pense qu'on va assister à un beau match, mais bon, les Toulousains ont pour moi leur mot à dire, bien évidemment.
Alors justement, parlons de Toulouse, Romain, parce que la période est un peu délicate pour le TFC, qui faisait une bonne première partie de saison. Il y a une seule victoire en 2025, c'était le 5 janvier. Mais il y a aussi de bons souvenirs parfois face au PSG. Donc peut-être qu'on compte là-dessus pour se relancer un peu, quoi. On peut se dire que ça peut être un match où on peut prendre au moins un point à Toulouse, non? C'est comme ça qu'on raisonne. Ouais.
Bon souvenir au stadium, faut remonter à 9 ans en arrière quand même.
Faut remonter à 2016, la dernière victoire du TFC face au PSG. Mais par contre, la dernière équipe à avoir battu le PSG en championnat, c'était lors du dernier match de Ligue 1 au Parc des Princes, 3-1, voilà. Victoire du TFC. C'était le soir du sacre du Paris Saint-Germain. Alors est-ce que c'était le vrai PSG, en tout cas un PSG totalement concentré, ça c'est une autre histoire. Mais le bilan du TFC face au PSG, il est pas forcément favorable au TEF, même s'il y a eu c'est vrai un match nul la saison dernière ici au Stadium et Luis Enrique a toujours des éloges, il a eu encore cette semaine en conférence de presse des éloges sur l'équipe du TFC emmenée par son ami ou en tout cas ancien collègue au Barça, Carles Martinez Novell. L'un était entraîneur de l'équipe première pendant que l'autre celui du TFC s'occupait de la Masia. Donc voilà, il y a peut-être un débat tactique en tout cas entre deux hommes qui ont une même vision du football, même si évidemment les joueurs utilisés n'ont pas le même niveau, hein, sans en faire offense aux joueurs du TFC. Mais Toulouse par contre, oui, tu le disais, des périodes délicates pour le TFC. Je parlais tout à l'heure avec humour de la dernière victoire du TFC au Stadium en championnat, commenté par Jeannot, c'était face à Saint-Etienne. Il faut remonter au 13 décembre tout de même. Ensuite le TEF a pris certes des points à l'extérieur, est allé gagner à Lens notamment en janvier, mais depuis c'est compliqué. Il y a eu en plus alors une victoire en Coupe de France face à Laval, mais une défaite aussi en Coupe de France face à Guingamp. Donc ces derniers temps, le public du stadium n'a pas forcément pour son argent, si je peux me permettre cette expression, parce que le TEF joue un peu moins bien, est un peu moins mordant, est moins efficace aussi offensivement. C'est pas la meilleure attaque du championnat, loin de là, avec des attaquants qui sont en manque de but. Dernier buteur à Auxerre la semaine dernière, c'est un défenseur central et un jeune du centre de formation qui est rentré en fin de match. Mais les attaquants aujourd'hui, que sont Abouklal, Magri et Babika, qui sont alignés ce soir, bon, ça fait bien longtemps qu'ils n'ont pas marqué un but.
Tiens, donnez la parole à un supporter du TFC, c'est Pierre qui nous rejoint en 32-16. Salut Pierre.
Oui, bonjour, bonjour à tout le monde RMC et merci de me laisser la parole. C'est très gentil à vous, comme d'habitude d'ailleurs.
Bah, avec plaisir, tu rigoles. C'est ta radio RMC, tu appelles quand tu veux et tu interviens quand tu veux. Comment tu la juges, toi, la saison du TFC, Pierre, alors?
Bah, frustrant. Très frustrant parce que tu sais, on parle d'Europe à la mi-saison, on fait un bon début de saison, on se met à rêver d'Europe et puis il suffit qu'on arrive au mois de janvier et tu te mets à perdre chez toi contre Strasbourg. Contre Montpellier, s'il te plaît, Montpellier, et tu perds, t'es éliminé en Coupe de France chez toi contre Guingamp. Y a pas des, voilà quoi, t'as l'art de relancer les équipes en difficulté. Donc voilà, très très frustré. En tant que supporter du TPT, franchement là, ce milieu de saison, c'est un peu la gueule de bois là pour nous tous.
Et qu'est-ce que tu te dis alors? Tu te dis, il faut se sauver le plus rapidement, faut avoir des ambitions tout de même. T'es dans quel état d'esprit alors à ce moment de la saison?
Ah bien sûr, non, mais il faut avoir de l'ambition parce que je veux dire, on peut toujours approcher le wagon, quoi. Faut toujours avoir de l'espoir, quoi. Mais au moins se mettre à l'aise, quoi. Et puis il y a une question de voilà, d'honneur, quoi. Tu peux pas te mettre tous les jours nous parle d'Europe. Ok, d'accord, ils sont gentils, mais tu peux pas te mettre à rêver d'Europe si c'est pour vendanger devant le but comme ils font tout le temps, rater des occasions de but et puis perdre des matchs qui devraient être faciles, quoi. Donc, mais il faut qu'ils continuent à y croire. Ben, je veux dire, ils peuvent approcher facile 7e, 6e place encore.
Ils sont 10e avec Toulouse pour le moment. Ouais, 10e.
Ouais, il y a 9 points d'avance sur le barragiste. Ouais. C'est d'abord là qu'il faut regarder. Après, l'Europe, c'est surtout un sujet qui a été abordé en fin d'année 2024 et en espérant par rapport au calendrier avec des matchs à domicile. Mais sauf que voilà, il y a eu match nul contre Nice, il y a eu défaite contre Strasbourg, défaite contre Montpellier. Et donc, les ambitions européennes ont été revues à la baisse pour l'instant parce qu'il faut que Toulouse retrouve cette dynamique qu'ils avaient avec une belle série de 4 matchs sans défaite et 4 victoires consécutives sans prendre de but qui plus est. Donc voilà, entre temps il y a eu la blessure de Rasmus Nicolaïsen, il y a eu celle de Sidibé, il y a eu un déséquilibre un petit peu au milieu de terrain avec la blessure de Siro, on rajoute celle de Beau aujourd'hui qui a quand même été on va dire le catalyseur du jeu toulousain. Donc il y a des circonstances qui font qu'aujourd'hui l'effectif est moins riche quantitativement et qualitativement qu'il ne l'a été peut-être par le passé. Je sais qu'il y a des gens qui râlent sur le fait qu'on ait vendu à Toulouse Dalinga, sauf que l'anticipation de vendre Dalinga, ça veut dire que Toulouse n'est pas parmi les 4-5 clubs en danger avec la crise des droits télé aujourd'hui. Donc il y a une stratégie qui est globale et qui n'est pas que sportive. Et
je précise une chose aussi, le Toulouse est le seul club lors du mercato hivernal qui n'a pas recruté. Et au contraire, il y a justement un joueur au milieu de terrain, Denis Genrot, qui est parti du côté de la Corogne.
On est resté prudent.
Mais par contre,
quoi.
Aucune arrivée. Aucune arrivée. Et ça, c'est vrai que chez les supporters du TFC, ça a un peu crispé aussi parce que on a dit, mais la data finalement n'a servi à rien cet hiver. Voilà.
On ne s'en est pas servi pour recruter des joueurs.
Ouais. Ouais. L'an dernier, elle avait servi pour Beau et Babika, par exemple. Voilà. Mais c'est vrai, oui, tout à fait. Mais de toute façon, le contexte des droits télé rend frileux pas mal de présidents de clubs.
Et
pour en avoir parlé avec Damien Comolli, il a fallu quand même aussi anticiper ce genre de situation et pour ne pas mettre non plus en péril l'avenir financier du club.
Roland, ton avis sur le TFC et sur cette saison des Toulousains?
C'est une saison moyenne avec quand même quelques regrets, notamment en Coupe de France. Il y avait la possibilité, mais ce n'est pas la seule équipe qui peut y avoir des regrets, l'OM aussi. Maintenant, ce que je viens d'entendre, je crois qu'il y a eu une certaine prudence et une certaine intelligence aussi pour faire gaffe sur le plan financier. Donc Toulouse ne sera pas inquiet pour descendre. Donc ils sont tranquillement en train de terminer leur saison avec un match par semaine. Et je pense que ces matchs-là servent à préparer la saison prochaine.
Reterminer. Tu as raison, coach, le supporter, parce qu'il suffit que tu réenclenches une série et tu peux, avec la victoire à 3 points, c'est pas toi que je vais l'inventer, te retrouver dans une situation intéressante au regard du calendrier de la deuxième partie du championnat.
Ouais, d'accord. Mais bon, ça va pas être compliqué. Je crois que ce qui était le plus intéressant, c'est de voir si sur le plan financier, on n'allait pas subir un chaos avec les droits télé. Ça a été réglé intelligemment en coulisses, donc je pense que c'est ça la chose principale.
20h36 sur RMC, l'intégral foot. Merci Pierre d'être venu au 32-16. Pierre, juste une dernière question, toi qui es fan du TFC et donc Toulousain de cœur au moins, tu préfères Jeannot Rességuier ou Big Flo et Oli quand même?
Non, j'en aurais
dégué.
Ah, merci. Mais Bisco et Louis sont là ce soir.
Ouais, ils sont là puisqu'ils présentent le troisième maillot.
Les stars de Toulouse.
Jeannot et Bisco. La présence de Jeannot et Séguier, s'il vous plaît.
Merci. Et vous êtes incroyable.
Allez, merci.
Vous
êtes incroyable. Bon match à toi.
Merci à vous.
Et tu viens quand tu veux sur RMC. 20h36. Dans un instant, on parle du Paris Saint-Germain. Supporters parisiens vous attendent au 32-16. Le point sur Monaco-Nantes. C'est pas le rythme de l'année là. Ça y est, le match est complètement plié, Maxime. On va pas se mentir.
Ah là, le soufflet est retombé. En effet, la 78e et Monaco qui mène 5-1. Mathis Sablin avait ouvert le score pour les Canaries, mais derrière Nicolas Cozza à la 8e a été expulsé. Et derrière, les Monégasques se sont un peu fait peur, mais ont déroulé avec notamment les buts de Minamino et Biret juste avant la mi-temps. Et derrière, Ben Seguir. Puis Biret s'est offert un triplé et il était même tout proche du quadruplé là sur un centre de Crépin Diatta. Les deux coachs qui ont fait beaucoup de changements pour préparer la suite et ménager les organismes. 11 minutes à jouer dans le temps réglementaire et Monaco qui mène 5-1 face à Nantes.
Et puis la Ligue 2, ce match entre Guingamp et Metz, Xavier Grimaud.
Oui, avec le bon coup pour l'instant du FC Metz, 38 minutes de jeu, 1-0 pour les Metz, un pénalty transformé par Gauthier Hein alors qu'ils étaient plutôt dominés par Guingamp, 7 minutes avant la pause, 1-0 pour Metz.
Et puis le basket à Caen, la Leaders Cup, on rappelle que Le Mans s'est qualifié pour la finale de cette Leaders Cup et on attend de connaître l'adversaire. Le match est parti entre l'ASVEL et Monaco, Arnaud Valadon.
C'est parti depuis 5 minutes et c'est Monaco qui mène de 3 points, 7 à 4 avec notamment 3 points de Peter Cornelli, comme quoi RMC n'est pas Radio Monte Carlo pour rien.
Et voilà, tout à fait, bien vu Arnaud. Et dans un instant on revient et on continue l'avant-match de Toulouse, Paris Saint-Germain, les choix de Luis Enrique ce soir qui fait beaucoup tourner. On vous attend, supporter parisien, au 32-16, à tout de suite.
RMC, Intégral Foot,
Benoît Boutron.
20h39 sur AMC, l'intégrale Foot Ligue 1 avec le grand coach Courbis jusqu'à 21h et encore un but en principauté, Maxime Tilliette.
Et oui, le 6e pour les Monégasques qui mènent désormais 6 buts à 1 face à Nantes et là il est l'œuvre de Georges Ilenikena qui s'est bien jeté au premier poteau pour reprendre le centre de Caio Henrique, la belle tête pour tromper Anthony Lopez et ça fait donc 6 à 1 pour l'AS Monaco face à Nantes. Soirée très compliquée pour les Canaries qui avaient très bien démarré cette rencontre, mais qui depuis subissent énormément.
Et soirée très intéressante pour Monaco parce qu'évidemment on n'est plus aux 3 points. Il y a un goal à virage qui peut dans quelques matchs au soir de la 34e journée être très important.
Et on rappelle que Marseille a aussi mis un carton cet après-midi à Saint-Etienne, 5 buts à 1. Donc les buts peuvent compter en fin de saison pour les places en Ligue des Champions. Merci Maxime, on revient rapidement. Détour par Guingamp, Guingamp-Metz, Xavier Grimaud.
La 40e, 1-0 pour le FC Metz. Ils se sont fait peur, les Guingampais, avec un duel perdu dans la surface par Donatien Gomis sur Pape Ba. Et dans la continuité de l'action, Idrissa Gueye, l'avant-centre, qui était tout proche de doubler la mise. Ça aurait été très lourd hein, pour les Guingampais. Mais pour l'instant, Metz est bien devant. 1-0, le pénalty de Gauthier Hein, 4 minutes avant la pause.
Et retour au Stadium de Toulouse. Dans 25 minutes, le coup d'envoi de Toulouse, Paris Saint-Germain. Jeannot, est-ce que tu peux nous rappeler le turnover opéré par Luis Enrique, s'il te plaît, ce soir?
Alors, le turnover, c'est le mot que l'on emploie, nous, hein, observateurs, journalistes, etc. Pour Luis Enrique, c'est pas un turnover, oui. C'est simplement une gestion de son effectif et de donner du temps de jeu à certains joueurs qui sont plus souvent sur le banc des remplaçants ou en tout cas qui ne débutent pas les matchs. Safonov dans le but, on rappelle que Donnarumma est resté à Paris. Hakimi avec le brassard de capitaine, Marquinhos est remplaçant. Pacho, Beraldo, Lucas seront les trois autres de la défense, le milieu de terrain avec Neves et Vitinha qui sont sur le banc des remplaçants, tout comme Nuno Mendes. Ça nous donne Ruiz, Mayulu et Kang In Lee, et devant pas de Dembélé, pas de Ramos sur le banc des remplaçants, et donc le trio offensif avec Kvaratskhelia sur le côté gauche, Barcola à droite et Doué dans l'axe de l'attaque, mais évidemment en sachant que les trois vont permuter.
Jeannot, je crois que on va pas vérifier maintenant. Mais 6 gauchers sur 10 joueurs de champ, je pense que c'est du jamais vu.
C'est en tout cas une grosse statistique, ça je suis d'accord avec toi. Ouais, du jamais vu, je suis à deux doigts de te suivre, oui, effectivement. Ah, mais bon, après défensivement, on les a déjà vus, les trois gauchers ensemble. Mais bon, après, ils pourraient nous mettre presque un plus latéral droit.
Ruiz et Lee, ils sont gauchers, mais je crois que Mayulu aussi.
Ouais, c'est ça.
Donc ça fait 3 et 3, 6.
Allez, ça reste assez impressionnant, je suis d'accord avec toi. Mais après, voilà, de toute façon, quand tu sais que dans le système de jeu de Luis Enrique, bah, Hakimi dézone, Lucas dézone, Beraldo peut dézoner aussi, Pacho, on l'a vu même dans une position offensive. Bref, en fait, quand tu prends une feuille de papier, feuille de match du classique du football pour le PSG, bah, tu les places pour faire joli, quoi, parce que tu sais qu'à un moment donné, dans le courant du match, ils ne seront, à part le gardien de but, jamais à leur place,
d'ailleurs,
ou quasiment jamais à leur place.
La question de savoir si Lee ou Doué allait jouer faux neuf, parce que les deux peuvent permuter, même au milieu de terrain,
fait.
Dans cette position. Donc, t'as raison, on surveillera ça. Oui, juste un mot, les gars, sur la série parisienne. On rappelle Paris.
Ah, ça, c'est impressionnant.
Toujours invaincu, hein. 16 victoires, 5 nuls en 21 journées. Est-ce que tu crois à cette carotte, Roland, au sein du groupe? Il y a du turnover, mais est-ce qu'on veut tout faire?
Et rajoute, 56e match en Ligue 1 de Luis Enrique, seulement 2 défaites.
Ouais, je pense pour l'ambiance et l'atmosphère du vestiaire, il n'y a pas mieux. Ils sont encore en Coupe de France où il y a eu un match en Coupe de France avec un but à 2 minutes de la fin, sinon tu allais au tir au but et on ne sait pas ce qui se serait passé. En Champions League, tu es toujours là, même si il faudra voir du côté du Bayern, du côté de Liverpool.
Le Barça, pardon.
Et en ce qui concerne le championnat, c'est quand même amusant dans un vestiaire de se dire on va peut-être terminer invaincu, ce qui est quand même assez rare.
Et ouais, ça peut compter. Et c'est peut-être ce qui est plus impressionnant, Jeannot, depuis le début de cette saison parisienne, c'est que même lorsqu'il effectue beaucoup de changements, le style de jeu reste le même. Il y a ce pressing agressif et on a du mal à. On est souvent asphyxié par le PSG, quels que soient les joueurs alignés sur le terrain.
Ce qui est un peu rassurant d'ailleurs pour Luis Enrique, pour les joueurs, pour le Paris Saint-Germain cette saison, c'est que le système de jeu reste le même, l'implication est la même. On n'arrêtait pas de dire à l'époque de Neymar, Mbappé, Messi que ces joueurs-là ne défendaient pas et que ça déséquilibrait l'équipe. Aujourd'hui, il n'y a plus ces joueurs-là de cette classe internationale et on voit un collectif bien rodé. On voit Doué, on voit Dembélé, on voit Barcola, Kvaratskhelia, on commence aussi à le voir dans un rôle défensif parce que c'est ce que veut aussi Luis Enrique à la perte du ballon. Et quand il a mis en place ce système là on était tous à dire mais bon, sans le numéro 9 c'est incroyable, c'est pas possible, c'est antinomique pour le football. Mais non, finalement c'est lui qui a raison, et la preuve aujourd'hui par rapport au parcours qu'il fait et en championnat et en Coupe d'Europe et en Coupe de France, quoi.
Jeannot, c'est surtout la présentation des choses, cette histoire de faux numéro 9, c'est pas qu'il y a un faux numéro 9, c'est qu'il y a un vrai numéro 10 qui se rajoute aux trois milieux, et il y a seulement deux vrais attaquants plus les milieux qui à tour de rôle vont devant. Hakimi qui a un rôle moitié défensif et moitié offensif. Donc finalement c'est une équipe bien équilibrée, et l'histoire du faux numéro 9, non, je préfère qu'on parle d'un vrai numéro 10.
Ce que je veux dire par là aussi, coach, c'est que quand tu fais l'analyse des buts marqués, je parle même pas de Dembélé, l'arme fatale en ce moment, qui marque dans toutes les positions et qui est d'une réussite insolente qu'il n'avait jusqu'alors jamais connue. Tu prends Barcola, tu prends Doué, et tu rajoutes même le premier but de Kvaratskhelia dans des conditions de numéro 9, pied gauche, pied droit, pied gauche, le crochet intérieur dans un tout petit périmètre. C'est ça qui fait la réussite aujourd'hui de ce que veut voir Luis Enrique en matière de jeu offensif. Après, dans l'équilibre, tu l'as avec Neves, tu l'as avec Vitinha, mais tu l'as aussi avec Ruiz, tu l'as aussi avec d'autres joueurs. On va voir ce soir avec Bayoulou et Kang In Lee, c'est un petit peu nouveau. Et puis derrière, tu as la stabilité avec un Pacho qui est assez impressionnant, Beraldo qui répond présent chaque fois qu'il est titulaire, que ce soit centre droit, centre gauche ou voire même latéral gauche. Donc quelque part, elle est là, la réussite de Luis Enrique.
Et des joueurs qui courent énormément.
Romain, tu t'es entraîné pour Kvaratskhelia?
Kvaratskhelia.
Bravo. Mais pour
sinon, tu fais Kvara. Mais j'ai remarqué que Jeannot disait Kvara.
J'ai pris l'habitude. Mais après, de temps en temps, histoire de passer dans le journal moyen, tu toucheras le rail.
J'ai déjà eu mon
Jeannot. En avant-match, il est tranquille, il est posé, il dit Kvaratskhelia. Mais dès que le match
dès qu'il y a l'accélération, là, on n'est pas bien. On n'est pas bien.
Exactement. Mais si on revient dans un instant, on aura un supporter parisien avec nous. On va parier aussi sur ce Toulouse PSG. Le point sur les scores des matchs en cours. Monaco qui met une volée au FC Nantes, Maxime Tilliette.
Oui, il reste 2 minutes dans le temps réglementaire et l'ASM mène 6 buts à 1
face au Nantais avec Ileni Kena qui aurait encore pu alourdir le score, mais Anthony Lopez s'est interposé sur la frappe de l'attaquant monégasque qui avait marqué quelques instants plus tôt de la tête. Les Nantais qui sont réduits à 10 depuis la 8e minute, ce qui explique les difficultés des Canaries ce soir, notamment à Monaco, et l'expulsion de Nicolas Kozza. Donc 6-1 et on est dans la 89e minute de jeu.
Je vous rappelle que c'est terminé dans les autres matchs européens, donc un partout entre l'Atlético Madrid et le Celta Vigo. Le Real reste leader de la Liga après son nul à Osasuna, encore un but pour Kylian Mbappé, un carton rouge pour Bellingham. Et c'est terminé également en Allemagne, 0-0 entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich. La Ligue 2 également, la fin de première période.
Le Barça va peut-être faire un gros coup.
On verra le Barça, exactement. Fin de première période entre Guingamp et Metz, Xavier Grimaud.
Il reste une poignée de secondes dans cette première mi-temps, environ 15 secondes. 1-0 donc pour le FC Metz qui va rentrer au vestiaire avec cet avantage qui leur permet pour le moment de prendre seul la deuxième place. Donc ce serait une victoire d'importance. Ils vont être devant à la mi-temps. 1-0 pour Metz, le pénalty de Gauthier Hein.
Tiens, à 20h48 sur RMC, on va parier sur Toulouse-PSG.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Christophe Plenet, notre expert en paris sportif. Salut Christophe.
Rebonsoir Benoît, bonsoir à tous.
C'est la journée des volées, est-ce qu'il y aura une volée ce soir au Stadium ?
Le PSG archi favori en tous les cas, 52 la victoire du club parisien, 4-60 le match nul, 6 la victoire de Toulouse. Je vois quand même le PSG s'imposer assez facilement. Je vais vous proposer Paris qui gagne par au moins 2 buts d'écart, c'est coté à 2-0-5. On peut assurer le coup avec le N2, hein. Paris qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1-80. Paris qui gagne les demi-temps, c'est coté à 3,40. Et puis, il y a un pari que j'aime bien. Hein. Jeannot a égrené le nom des remplaçants sur la feuille de match. Ouais. Donc, le remplaçant qui marque, quel que soit le remplaçant, hein, Dembélé ou autre, c'est 2,25, c'est cadeau pour moi.
Ça, c'est pas mal, Roland.
Ah ben oui. D'ailleurs, moi, j'avais pensé mettre Dembélé. Ben, je vais mettre ça. Donc, Paris Saint-Germain qui perd pas, les deux équipes qui marquent, parce que je pense que Toulouse peut marquer. Non,
et le N2 donc, sur un match comme ça.
Ben oui.
La cote, c'est 1,07, je pense, c'est ça, non ?
1,52 la victoire du PSG.
Ben, ça fait rien.
Gagne petit, coach.
Avec la possibilité de voir un remplaçant buteur.
Ah oui, c'est ça. Plus,
et ça fait que 1,55 ?
Non, ça, c'est la victoire parisienne, c'est 1,55. Mais le N2 avec un remplaçant buteur, c'est coté à 2,75.
Eh ben voilà. Tout de suite, vous êtes sévère.
Bon, tu te rattrapes. Ok, merci Christophe. Les conseils à retrouver sur rmcsport.fr.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
C'est la mi-temps à Guingamp. Xavier Grimaud entre Guingamp et Metz.
Oui, mi-temps confirmé. Metz est devant, le pénalty de Gauthier Hein à la 28e pour les Messins.
Merci Xavier, à tout à l'heure pour la seconde période. Le temps, le score entre Monaco et Nantes, Maxime Tilliette.
Il y a 5 minutes de temps additionnel et il reste 3 minutes 30 à disputer dans celui-ci et Monaco mène assez largement 6-1 face aux Canaries, match marqué notamment par le triplé de Mika Biarritz qui avait déjà marqué un triplé il y a 15 jours ici même au Stade Louis.
Et à 20h50, on rappelle dans un quart d'heure le coup d'envoi de Toulouse, Paris Saint-Germain, Jeannot Essayé, Romain Malric au stade. On est là avec coach Courbis et on accueille Cameron, supporter parisien qui a composé le 32-16. Salut Cameron.
Salut l'équipe, bonsoir à tous.
Salut Cameron.
Bon Cameron, on a détaillé la compo parisienne. Tu as vu le large turnover. Tu t'attends à quel type de match ce soir?
Honnêtement, ça m'inquiète pas du tout parce que en ce moment l'équipe elle est en pleine confiance. Les remplaçants qu'il a mis, c'est plutôt des gars qui jusqu'à maintenant ont montré des belles choses. Je pense au petit Mayulu, moi que j'aime beaucoup. Et c'est une belle curiosité, donc j'attends de voir qu'est-ce qu'il peut faire sur un match pareil. Après, garde quand même une ossature, une colonne vertébrale quand même de joueurs entre guillemets cadres. On voit qu'Hakimi il est sur le terrain. Il y a Ruiz, bon, même si moi je suis pas un grand fan de Ruiz, je trouve que c'est un peu je dis souvent c'est le joueur qui, comment dire, il sent la vanille, c'est toujours très lisse, très machin, très scolaire.
Il sent la vanille. C'est
bon, ça. Ouais, c'est bref, il y a autant de saveurs qu'un héros de nature, mais bon bref. Et puis il y a Barcola quand même devant avec Vara, Doué, donc honnêtement, voilà, je m'attends après, vous savez, les matchs de Ligue avant toujours les matchs avant Ligue des Champions, c'est un peu particulier. Mais voilà, c'est confiant. Il y a 7 points d'avance après le match de Marseille. L'équipe en pleine confiance. En ce moment, je les sens vraiment bien. Donc, je suis pas inquiet. Et puis moi, je trouve que c'est une bonne chose de quand même se faire tourner et d'impliquer tout le monde.
Cameron, en tant que supporter, t'es attaché à cette invincibilité? T'aimerais terminer invaincu la saison en Ligue 1?
symbolique, oui. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, quand c'est simple, hein. Moi, Paris, quand ils perdent, ça m'énerve. Donc, je peux passer un mauvais week-end à cause de ça.
D'accord.
Donc, okay. S'ils peuvent m'éviter ce genre de.
Pour ta famille, il vaut mieux que ça gagne, quoi, ou que ça perde pas.
Ouais, ouais, ouais.
Plus
ouais,
important la Champions League, quand même. Hein.
Ah, bah oui.
Ouais, plus important la Champions League, bien sûr. Ah, bah, si tu me dis, on perd trois matchs dans l'année, voilà. Et on arrive quand même minimum en demi-finale, moi, je serais ravi, hein.
Ça marche. Si jamais ça perd, on peut te rappeler dans l'after, après le match?
Ah, bien sûr. Ah, bah oui.
Ça marche. Okay. Merci Cameron. Bon match plaisir. À toi. Merci Toulouse PSG dans 13 minutes. Sur bon
salut, salut.
Merci Cameron. Bye bye. Retour à Louis II, les dernières secondes entre Monaco et Nantes, Maxime Tilliette.
Oui, les 60 dernières secondes et Monaco qui continue d'attaquer avec Ileni Kenna qui a trouvé le contrôle, le ballon, la frappe et ça fait doubler pour Ileni Kenna et ça fait 7-1 pour l'AS Monaco qui déroule dans cette seconde période face à des Canaries aux abois qui n'ont fait que subir dans cette seconde période et donc pour la différence de but, c'est bien pour Monaco mais c'est mauvais pour les Canaries en bas de classement puisque ça leur fera moins 6 à l'issue de cette soirée, plus 6 pour les Monégasques visiblement avec donc le doublé à l'instant d'Ileni Kenna, le bel enchaînement en contrôle puis frappe croisée en bout de course pour tromper Anthony Lopez.
Doublé d'Ileni Kenna, triplé de Guéret et sale soirée pour Anthony Lopez, Roland.
Ben oui, c'est vrai que là ça ne doit pas être facile à digérer. Je connais pas le calendrier de Nantes par cœur.
C'est pas si facile. Hein. Il y a un match compliqué qui arrive. Est-ce que tu l'as sous les yeux, Maxime, ou je vais regarder ça.
Il y a réception de Lens, puis déplacement au Vélodrome à Marseille, puis réception de Strasbourg et réception de Lille. Et puis on arrivera à la trêve internationale au mois de mars.
C'est vrai que c'est un
soir. Au soir de Lille, il faudra bien regarder où se trouve Nantes.
Et on rappelle. Ouais. Pour ceux qui nous rejoignent, le fait de match important, Nantes avait ouvert le score, mais carton rouge pour Kozza à quelle minute d'ailleurs, Maxime?
À la 8e. À la 8e minute, but d'Ablin à la 5e, les Nantais qui avaient même touché le poteau juste avant ça. Et derrière, Kozza a été expulsé et la dynamique s'est totalement inversée. C'est terminé. Et Monaco qui s'impose 7-1 avec donc Ablin qui avait ouvert le score. Kozza expulsé à la 8e. Et côté Monégasque, on note surtout le triplé de Mika Biret, encore une fois l'attaquant danois. 15 jours après son premier triplé face à Auxerre, et bien il récidive, ça lui fait 7 buts en 6 matchs sous ses nouvelles couleurs.
Quand on parle d'atmosphère, d'ambiance, de vestiaire dans un groupe de sportifs et un groupe de footballeurs, ben, digérer ce 7-1 là, sincèrement ça va pas être facile du tout.
La défaite 7-1 de Nantes à Monaco, magnifique victoire des Monégasques qui se relancent en championnat et qui répondent à Marseille qui s'est imposé 5-1 contre Saint-Etienne. Ce soir, c'est Toulouse-PSG, coup d'envoi dans 10 minutes sur RMC. Je remercie Romain Malric et Jeannot Ressegui. Merci les gars, on vous retrouve dans 10 minutes hein, avec Thibaut Giangrande et toute l'équipe de
l'Astorale. Juste pour te décrire Benoît, oui, ce que l'on voit, parce que c'est un soir un petit peu particulier avec la présentation du troisième maillot. On a un festival de drones au-dessus du stadium. Ils viennent tout simplement de décrire un supporter qui tend une écharpe avec le sécante qui est en train d'être interprété. On a vu la croix d'Occitanie qui est également dessinée dans le ciel. Et dans quelques instants, on aura le violet et le blanc du maillot, de ce fameux troisième maillot réalisé avec Visionnaire, la marque de vêtements de Big Flo et Oli. Tout ceci, bien évidemment, au-dessus du stadium, dans le ciel noir, cité des violettes à l'instant même, pour le plaisir des yeux des spectateurs à guichet fermé ce soir au stadium.
Un stadium plein.
Merci pour cette affiche. C'est vrai qu'on s'en douter, mais belle ambiance en perspective à Toulouse. Merci Jeannot, merci Romain. Tiens Roland, je voulais juste terminer et te faire écouter cette réaction de Roberto De Zerbi. On a vu la victoire de l'OM cet après-midi contre Saint-Etienne, 5-1, le doublé pour Amine Gouiri, et cette réflexion de De Zerbi sur le positionnement de Gouiri, il n'est pas forcément d'accord avec toi. Écoute l'entraîneur de l'OM.
C'est pas grave.
Gouiri est un joueur très fort qui doit penser que c'est un vrai numéro 9, heureusement, parce que c'est toujours bien de jouer à plusieurs postes, mais je pense qu'il faut vraiment qu'il se spécialise dans ce poste de numéro 9, donc comprendre où se trouvent les cages. Il faut aussi avoir cette conclusion parfaite. Quand il réussira à améliorer ces aspects-là, ce sera vraiment un joueur de premier niveau européen, parce que c'est déjà quelqu'un de fondamental pour l'équipe.
Ouais, voilà. Il veut qu'il se positionne en vrai numéro
9. Oui, mais bon, là-dessus, on est presque d'accord, dans le sens que, pour moi, un vrai numéro 9 que j'ai connu, c'est Carlos Bianchi, c'est De Leonis, ce sont des finisseurs, alors que Gouiri, je pense que c'est un attaquant, un attaquant de pointe, oui, par exemple Greenwood, c'est un attaquant, mais c'est pas un numéro 9. Quand il nous l'a mis numéro 9, et c'est sûr que je préfère voir Gouiri Greenwood et peut-être même un jour avec Rabiot qui recule un peu, voire un troisième attaquant, ouais, ne serait-ce que dans les 30 dernières minutes d'un match, ou que ça se serait pas bien passé, c'est pas interdit du tout non plus.
Et tu dis Greenwood, toi. Alors,
pourquoi, comment
Greenwood,
ça,
je crois.
Eh bien, Greenwood.
Bon. Merci, Roland. Bonne soirée à toi. C'était un plaisir de passer ces deux heures en ta compagnie.
Salut, c'est
et dans un instant, c'est l'After Live, la grande soirée Ligue 1 avec Toulouse PSG, Jeannot Rességuier, Romain Amalric, Thibaut Giangrande et toute l'équipe de l'After Live. Bonne soirée à tous sur RMC. Ciao.